Hey, m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. C'est Joe Dassin, c'est Joe Dassin. Je t'achante toujours un peu carré pour que tu la reconnaisses, tu la reconnaisses pas en même temps. Moi, je veux te chatouiller l'esprit. Joe Dassin, souvenir de 1969. Comme quoi, il est éternel, ce Joe Dassin-là. Un petit bouquet d'églantine. Ça, j'aimais ça quand j'étais jeune. Parce que, tu sais, quand t'es jeune, t'es très immature, tout ça. Puis j'entendais toujours d'églantine, un petit bouquet d'églantine. Tu sais, mon cerveau focussait sur le, tu sais, des glands. Moi, je voyais un drôle de bouquet. Ça me faisait rire, pas possible. Maman, j'ai pas dit ça. Ma mère, elle a chanté ça dans la cuisine en faisant son petit ménage. Moi, j'entendais ça. T'as 12 ans, tu sais. Je pense pas à des fleurs tout de suite quand t'as 12 ans. Fait que c'est Joe Dassin. Moi, il y a un moment donné dans la toune, là. Moi, j'aime beaucoup les paroles à texte. Moi, j'aime beaucoup l'écriture. J'aime les phrases qui me donnent des images fortes. Églantine, on sentait un bouquet d'églantine. Ça, c'était très fort. À un moment donné, dans la toune, c'est très recherché. Ça, il chante « Zai, 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 zai ». Zai, 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 zai. Ça, c'est des paroles. Je t'invente pas de la merde. Tu peux googler. Google parole, parole d'églantine. Puis « Siffler sur la colline », le titre de la chanson. À un moment donné, zai, 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 zai. C'est pas Joe Dassin, ça? Le gars, on s'en souvient. Dans 100 ans, on va se souvenir de Joe Dassin juste à cause de zai, 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 zai. OK! Alors, mon commentateur d'aujourd'hui. D'ailleurs, récemment, nous avons Noémie est toujours fidèle au poste. On a eu récemment Cotisport qui a commandité notre podcast. Eh bien, aujourd'hui, on a c'est le même entrepreneur que Cotisport et j'ai nommé Montréal Fitness qui commandite mon podcast. Noémie qui vous montre le site à l'instant. Évidemment, toujours là pour promouvoir le bonheur, la santé, un impact positif au quotidien. Et d'ailleurs, ici, on parle... des poids, Noémie qui vous le montre à l'instant. On parle d'avoir un gym à la maison. L'important, surtout à cause de la crise de pandémie qui s'achève, espérons-le, mais ta barouette, c'est pas encore réglé. Tu veux t'entraîner quotidiennement, facilement, l'ergonomie des produits. Et sont très bons. Tu dis un poids, n'importe quel poids, ça pèse la même chose, ça fait un job, mais non, c'est ça l'affaire. Je suis obligé de t'avouer que Montréal Fitness, ça, la pogne. Moi, je suis un gars de pogne. Des fois, là, ça me cochonne la pompe, ça me bat en tabarnak. Eux autres, la pogne est bonne, il y a un bon petit rack, puis t'as juste à ajouter les poids aux extrémités. Tout est bon, ça tient en place, t'as pas peur que ça tombe. Puis quand tu vas sur le site, il y a tout de suite quelqu'un qui t'accueille avec un petit pop-up qui peut t'apporter de l'aide si tu as besoin de questions. Et il y a un code promo, 5% de rabais, si tu c'est avec Sam 5. Sam 5, Sam pour moi, 5% de rabais. Tout est dans tout. L'arbre est dans ses feuilles, Maridon, Maridé. Oublie jamais, zai, 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 zai. Mon invité d'aujourd'hui, l'animateur hors pair que j'aime. Ça, je dis pas ça à chaque fois, mais là, moi, te le dire, je l'aime d'amour. Les habitués, vous êtes habitués d'entendre ça. Mais pour de vrai, qui est le meilleur animateur, pas évident, mais Camine, yai, 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 yai. OK, le meilleur animateur depuis probablement 1745, là, tu vas te dire, il n'était pas né, mais clairement, Pierrot est arrivé depuis là. C'est ma référence de l'animation et pour bien des gens à part ça, c'est un pur privilège de le recevoir aujourd'hui. Pierre-Aude, madame, messieurs, bon podcast! Pierre-Aude.
Hey, 1745, là. Franchement, je ne le prendrai pas personnel, là, mais disons que...
dans l'esprit, là, pas...
OK, mais disons que je suis assez vieux de carrière pour avoir tourné Siffler là-haut sur la colline de Joe Dassin. Et j'ai assez de métier pour avoir tourné Zai, 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 tam, Zai, Zai.
Oui, c'est juste pour toi, Pierre. J'ai pris une toune référence pour que tout de suite j'aille te charmer dans l'introduction.
Non, c'est... mais sérieusement, ça, je peux déjà te raconter, pas une anecdote, mais
vas-y.
Pas une anecdote, mais un détail, disons, de coulisses dans la radio. Paul et moi, on a commencé tous les deux à 3 mois d'intervalle, les nuits de fin de semaine. On commençait tous les nuits de fin de semaine à l'époque. Ouais. On avait commencé à s'écasser. On faisait 6 heures d'antenne et on jouait de la musique. On était comme un poste FM, OAM. Et c'est quand même long, là. 6 heures, tu fais la mise en onde toi-même, puis c'est toi qui fais tourner les disques, puis tu réponds au téléphone de temps en temps. Puis, bon, on avait les nouvelles du réseau à moins quart, à chaque heure. Ça te donnait un petit 2-3 minutes de relaxation. Mais des fois, tu voulais avoir un peu plus de temps pour toutes sortes de raisons. Et Joe Dassin, c'était notre dépanneur, parce que lui, il avait fait une chanson qui s'appelle « L'été indien », que tu connais.
Oui, Ben oui.
Bon, l'État indien, il y avait la version 45 tours à l'époque. Donc, la version simple, ça, c'était 7 minutes. Mais la version album, c'était à peu près 15 minutes. Et qu'on aimait ça jouer la version album de Joe Dassin, ça nous donnait 15 minutes pour aller se faire un café, pour aller aux toilettes, pour aller marcher un peu, pour aller chercher la commande de smoke meat qu'on avait faite à 2-3 heures du matin parce qu'on avait une petite régale. Alors voilà, là, tu me rappelles Je l'ai tourné en masse, Joe Dassin.
Et quand on a reçu ton frère, Pauloun, là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça fait, je me souviens plus c'est quoi le numéro du podcast, mais il est là en liste. Paul nous racontait que plus jeune, au sous-sol de la maison, vous faisiez des espèces là, de caméras avec des rouleaux de papier de toilette à titre de lentilles. Ouais. Mais étonnamment, ce qu'on pourrait penser, c'est Paul qui était devant et c'est toi qui étais derrière, qui faisais un peu le caméraman. Ça, j'imagine, c'est des bons souvenirs pour toi. Puis c'est vrai, surtout, là. Il ne m'a pas compté des menteries.
Pas du tout, pas du tout. Je te dirais que les influences radio et télévision, on les a eues vraiment dans notre enfance. Parce que, et c'est vrai, moi, j'étais fasciné par les caméras à cause d'une publicité du Canal 10 à l'époque, TVA maintenant, ou Télémétropole. Ils avaient fait une publicité pour illustrer un peu l'évolution de la technologie. Puis on voyait les caméramans à l'œuvre. Et on avait un cousin, nous, familial, du côté Beaulieu. Beaulieu, c'est le côté de ma grand-mère.
OK.
Et puis, Yvon a été un des meilleurs caméramans de Radio-Canada. C'est lui à qui on donnait des assignations très particulières, comme aux Jeux olympiques, le petit véhicule qui suivait le cyclisme ou les marathoniens. C'est Yvon qui était le caméraman. Bref, on avait ça dans la famille. Puis moi, ça me fascinait, ce côté technique-là. Et c'est Paul, effectivement, qui était de l'autre côté. Puis moi, j'étais le caméraman. Mais après ça, les influences sont venues. Ma première vraie influence télévision, moi, c'est Jean-Pierre Coigny.
OK.
Tout le monde pense que Salut Bonjour, c'est l'ancêtre des émissions du matin, ou c'est la première émission du matin, mais c'est vraiment Jean-Pierre Coigny dans les années 60, à qui on avait confié une émission qui s'appelait Métro Matin.
OK.
Et Coigny, il faisait ça en solo. Jean-Pierre était extraordinaire. Il faisait tout. Il faisait l'horoscope, la météo, le fil des nouvelles de la nuit. Il faisait un peu d'humour. Et Jean-Pierre était un excellent caricaturiste. Alors, il faisait ses caricatures. Et puis moi, dans la chambre que je partageais avec Paul, je m'étais fabriqué, entre guillemets, un mini-studio. Un peu comme Jean-Pierre Coilier. Et je l'imitais. Puis je faisais comme lui. Et je prenais des segments de son émission que je regardais avant d'aller à l'école. Et je répétais ça tout seul dans la chambre. Dans la famille Hood, là, de plus loin que je me rappelle, pour Paul et moi, tu aurais pu nous entendre décrire du hockey, tu aurais pu nous entendre imiter quelqu'un, tu aurais pu nous entendre parler de télé, de radio. Si tu étais venu dans notre chambre à 3 heures du matin, des fois, on ne dormait pas encore, Paul et moi. On avait des petits radios portatifs transistors.
Ouais.
On était fascinés par le fait qu'il y avait de la radio la nuit. Puis il y avait un animateur qui travaillait la nuit. Et alors, tu vois le genre, hein, ça a vraiment fait partie de notre vie et de notre enfance.
T'avais quel âge à ce moment-là quand tu dis que tu écoutais ça avant l'école, tu répétais ça, t'avais quel âge? 7
ans? 10 ans. J'avais 10 ans. Mes souvenirs sont très précis, Sam, parce que c'était l'année de l'Expo, d'Expo 67. Puis moi, je suis né en 57, donc j'avais, disons, autour de 10 ans. Fait que, tu sais, j'étais même pas encore adolescent, j'étais encore à l'école primaire. Ça bouillonnait déjà. Tu sais, on a des formations académiques en autre chose, Paul et moi, Paul en géographie. Moi, je suis un diplômé des HEC, mais au fond, c'est parce qu'on voulait avoir une formation quelconque. Mais je pense que la radio, d'abord, et la télé, ensuite, ont toujours fait partie de notre vie.
Est-ce que ça te tentait de faire les formations au HEC ou toi, tu savais déjà que c'était plus la télé, mais tu le fais des fois à cause des parents ou à cause de s'assurer un plan B ou c'était quoi tes espèces de motivations à ce moment-là?
C'est une très bonne question. Écoute, ma première petite amie, là, mon sweetheart d'école, là, Céline, son père était comptable agréé. Mais moi, je faisais déjà de la radio depuis la première année. Je suis rentré à CKAC, j'étais en première année de cégep à Bois-de-Boulogne. Fait que pour moi, c'était un emploi d'été. Tu sais, il y en a qui travaillent au McDo, d'autres qui emballent l'épicerie à l'épicerie du coin. Moi, pour moi, c'était mon emploi d'été, mon emploi de fin de semaine. Puis je me dis, un jour, ça va arrêter. Et je vais donc être comptable agréé. Alors, j'ai embarqué là-dedans. Puis mais ça n'a jamais arrêté. Donc, j'ai fait 2 ans à CKAC. Après ça, je suis allé à Sequoia. Et oui, j'ai été DJ à Sequoia. Oui. De 78 à 80, à l'époque un peu mêlé. Tu sais, c'était macramé un peu, c'était rock un peu, c'était folklore un peu. Et toi, on mêlait du René Claude avec du Frank Zappa, tu vois ce que je veux dire?
Oui, oui, oui.
Alors, une belle époque, cependant. Mais bref, pour ça, pour dire, Sam, ça n'a jamais arrêté, même quand j'étais étudiant. Et puis, à un moment donné, j'étais sur le point de faire mes examens de fin de session ou de fin d'université en comptabilité. J'avais déjà reçu des offres pour faire mes stages comme comptable agréé. Et j'ai réalisé que j'allais faire la gaffe de ma vie. En quittant, dans le fond, le métier qui m'appelait, qui était ouais. évident. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir le registraire à l'École des hautes études commerciales. Je lui ai dit, écoutez, je peux bien faire l'effort là, d'aller chercher mon diplôme en comptabilité, mais je sens que je fais ça pour rien, puis je sens que je passe à côté de quelque chose. Alors, il m'a dit, ben écoute, on a un programme de marketing qui est extraordinaire. Le chef du département, c'était un docteur en communication de l'Université d'Indiana, Claude Choquette. Il dit, demande donc à Claude de te faire un programme. Si tu veux refaire une année de spécialisation, on va t'admettre. Demande-lui un programme adapté à ce que toi, tu veux faire en radio et en télévision. Et c'est là que j'ai fait ma plus belle année d'université, celle que j'ai préférée le plus, parce que le directeur à l'époque m'avait fait faire les cours académiques de base, ouais. mais il m'avait donné la liberté d'écrire un mémoire sur comment développer un modèle marketing pour les stations de radio. Et wow, donc, et là, moi, je m'en allais vraiment être beaucoup plus gestionnaire en radio qu'animateur en radio. Mais, tu sais, là, aller contre nature, là, toi, t'es jeune encore, tu peux pas le savoir encore au complet. Mais moi, à mon âge, je suis rendu, je réalise que tu sais, les Anglais, ils ont une expression « there's so much you can do hein? ». Tu peux pas aller contre ta nature. Puis finalement, ben, la vie m'a amené là où je voulais aller, dans le fond, et m'a tellement donné de cadeaux jusqu'à maintenant.
Oui, puis même plus jeune, c'était comment? On est, mettons primaire, là, j'essaie toujours de faire des petites comparaisons parce que vous avez quoi, 3 ans différents, je pense, ans, avec ouais, Paul, tout ça. Ouais, il y a aussi ta sœur Joanne, si ma mémoire ouais. est bonne.
Joanne est 3 ans plus jeune que moi. On se suit de okay. 3 ans.
C'est ça, puis Paul disait que dans ce temps-là à l'école, vu qu'il était très bon au niveau académique, ça amenait des fois certains soucis là, au niveau des petites bagarres. Puis est-ce que tu étais dans le même range ou si ton primaire, tu l'as vécu complètement différemment?
Ah, mon primaire, je l'ai vécu, je te dirais, moi, mon primaire, je l'ai vécu en m'amusant beaucoup. C'est vrai qu'on avait une certaine facilité académique, mais on avait une mère qui était extrêmement sévère, pas sévère en général, mais très très exigeante, que je devrais dire, sur le plan académique. Exemple, sur le plan du français, la conjugaison des verbes, sur l'écriture cursive, elle suivait nos devoirs, puis si c'était bousillé un peu, elle tolérait pas ça, il fallait effacer, puis il fallait qu'on recommence. Donc, c'était très bien encadré. Et puis, sans dire qu'on était au-dessus de nos affaires, comme on dit en québécois, c'est vrai que ça allait bien sur le plan académique. Mais moi, j'ai adoré mon primaire parce que je reviens à Expo 67 à 10 ans. J'aurais souhaité que les gens de ta génération vivent ça. Mm-hmm. Expo 67, ça nous a tellement déniaisés, ça nous a ouvert sur le monde. J'avais mon passeport. Écoute, je l'ai encore quelque part ici. Si je le retrouve, je vais te le montrer. Ton abonnement annuel pour aller à Expo 67, c'est un passeport. Okay. Comme un passeport pour voyager, et puis tu visitais le pavillon de la Grande-Bretagne, tu avais une estampille, puis tu visitais le pavillon de la France, tu avais une estampille, et puis c'était à l'époque où on était un peu plus innocent. Alors moi, j'y allais tout seul. Des fois, je partais avec un de mes amis, les deux à 10 ans, on prenait le métro avec un lunch, puis on s'en allait à Expo 67. Bref, là, je fais un long détour pour te dire que, puis tu m'arrêteras si mes détours sont trop longs. Là.
Non, vas-y, j'adore tout.
OK. Disons que on a vécu, je suis chanceux, moi, d'avoir été de cette génération de baby boomers. Même le 3 ans de différence avec Paul, je le dirais, m'a avantagé dans cette innocence-là. Pour moi, tous mes souvenirs d'enfance sont tous reliés. Expo 67, ma quatrième année avec Bernard Tremblay, mon professeur, Jean-Pierre Coilier qui animait Métro le matin, il y avait eu un concours d'organiser auprès des artistes pour faire des chansons sur Montréal. Coilier diffusait ces chansons-là le matin. « Montréal, je t'aime pour tout ce que tu es. » Puis je me rappelle encore de ça. Alors, tu vois, tu sais, quand tu dis que tu as une enfance heureuse, là, moi, ça a été ça. Puis ça a été alimenté par, par ce grand moment d'euphorie qu'on vivait à Montréal à ce moment-là, au milieu des années 60.
Ça fait que tu n'avais pas le temps de penser aux petites filles là, à cet âge-là, à 10, 11, 12 ans des fois. Là. Oui?
J'étais plus précoce que Paul, probablement.
On rappelle que Paul...
Oui, rappelle que Paul quoi?
On rappelle que Paul... si vous écoutez le Spacecast avec Paul, on entend même Francine, sa femme, lui dire qu'il n'était pas bien ben déniaisé dans leur premier rendez-vous. Mais toi, Pierre, c'était autre chose.
Mais là, Lynn, elle pourrait te dire ici que le Pierre qu'elle connaît aujourd'hui n'a pas de misère à imaginer le Pierre de l'époque. J'en ai trouvé pas mal qui ont pas mal jeune.
Ah oui, hein?
Bon, mais tu sais que mon premier crush... Vraiment, là, fort. C'était ma prof de troisième année, Francine Léveillé. Mon Dieu, je l'ai trouvée belle, Francine. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'étais carrément en amour avec elle. Mais un amour, là, tu sais, gars-fille, là. Tu sais, on a tous aimé nos profs, là. Tu sais ce que je veux dire, là?
Oui.
Moi, pas ça. Moi, c'est vraiment gars-fille, là. Tu sais, Francine Léveillé. Puis ma première fille que j'ai vraiment crousée, mais vraiment, en sixième année, c'était Danielle Saint-Arnaud. Hey, je me rappelle encore des noms. Je me rappelle très bien Danielle. Elle était toute cute. Elle était toute fine. Et puis, alors, disons que j'ai eu ça assez tôt dans ma vie.
Mais c'était quoi? Parce qu'on a 12 ans, on a toutes nos petites techniques. Les techniques de Pierre-Aude à 12 ans, ça ressemblait à quoi pour croiser la belle Danielle?
Moi, je parlais.
Oui?
Oui. Écoute, j'avais pas la voix que j'ai aujourd'hui parce que j'avais pas mué encore. Mais de tout temps, on m'a dit que ma voix faisait du bien, même quand j'étais enfant.
C'est vrai.
C'est souvent à moi qu'on demandait d'aller parler en avant au nom des élèves. Au secondaire, c'est souvent moi qui allais faire les messages à l'intercom. Tu vois, tu sais, quand je te dis, là, tu ne peux pas changer ton destin. Là.
Non, c'est
ça. Alors, moi, c'était probablement ma voix, mon propos, puis mon espèce de passion... que j'ai tout le temps, en me levant le matin. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais une minute de ma vie, moi, qui est banale. Je sais que je dois tomber ses nerfs à bien du monde, parfois.
C'est bien beau, ça.
Descendons, toi, un peu, là. Mais mais que ce soit heureux ou malheureux, là. Alors, je pense que c'est peut-être ça qui faisait mon charme, même à ce très jeune âge-là.
Mais la question qui nous brûle les lèvres, Pierre, est-ce que ça a marché avec Daniel?
Non. Ben écoute, j'ai peut-être pas travaillé assez fort, là, tu sais, parce que, hey, t'apprends, là, tu sais, là, tu fais tes premiers pas. Toi, là, tu sais, ton premier show que t'as fait tes premiers shows, quoi, devant le miroir, toi?
Ouais, mais
devant tes parents ou devant tes...
Ouais, ça marchait, Pierre, ça marchait, ça n'a pas de bon sens, mais ça marchait.
Oui, mais ça marche mieux aujourd'hui.
Oui, un peu mieux. Ouais, c'est plus le fun devant pas ses parents. Oui, c'est ça.
Devant pas ses parents. Ou même devant toi, devant le miroir. Je ne sais pas si t'es comme moi. Moi, j'aime pas ça, me revoir.
C'est spécial.
J'ai de la misère à me revoir. Moi, tu regardes-tu tes shows, toi, quand tes shows, ils sont captés, j'imagine?
Ils sont, j'en capte quelques-uns à l'occasion pour revoir mes tics puis tout ça. Mais sinon, j'écoute mes audios beaucoup.
OK, ouais. Mais tu as de la misère à te revoir, hein? Non?
J'avais plus de misère.
Pas une réponse dans la bouche, là, mais...
Non, du tout. Non, j'avais plus de misère au début parce que ça faisait spécial, mais à un moment donné, à force de me regarder, je suis pas en mode jugement, j'étais en mode analyse, critique, mais pas jugement facile. Je sais pas si tu comprends la nuance un petit peu. C'est comme, là, je passe toujours ma main à... des fois, on a comme des tics, fait que j'essaye de faire attention pour vraiment que le public se concentre parfaitement sur les mouvements qui en valent la peine dans certaines de mes histoires. Ben, sinon, c'est lourd pour tout le monde. Après 15 minutes, je me regarde des fois, ben, on recule de 6-7 ans plus, là. Mais ben oui, on n'a pas le choix. Mais
il faudrait que tu me donnes tes trucs parce que moi, tu vois ta question par rapport à ma première, mon premier petit coup de cœur. J'ai toujours eu aussi un côté insécure, puis je l'ai encore à 64 ans bientôt. Et je le gère mieux, probablement.
Oui.
Puis je travaille encore très fort là-dessus. Mais. Tu sais, je dis souvent à mon agent d'affaires, mon partenaire, Sylvain Simard, Je dis, tu sais, Sylvain, c'est pas mon gérant, là. Il l'est. Mm-hmm. Et puis c'est lui qui négocie, puis c'est lui qui m'ouvre des portes, puis c'est grâce à lui si on est ensemble aujourd'hui. Puis
ben oui.
Je suis déjà très content qu'il ait organisé ça. Mais c'est aussi mon filet de sûreté. Tu vois ce que je veux
oui,
dire?
Ben oui.
Pour mon insécurité. Mm-hmm. Et je me dis qu'il y a un côté, je pense, qui est normal, puis tu dois le vivre, surtout toi, tu es tout seul, là, ensemble. Ouais. Là. Tu dois le vivre, ça se peut pas que tu le vives pas. Mais probablement que par ta personnalité, je te dirais par ta génération aussi, probablement que tu le gères mieux et plus vite dans ta carrière que moi. Moi, j'aurais dû ou j'aurais voulu le faire plus vite pour m'en libérer d'une bonne partie encore à l'âge que j'ai, mais qu'est-ce que tu veux? C'est là. Alors, cette insécurité-là, je l'ai traînée aussi avec les filles. Je l'ai traînée dans les parties. Ouais. Souvent, parce que j'étais insécure, je m'offrais pour faire tourner la musique, moi, dans les parties.
OK.
Parce que j'étais insécure d'aller danser, coller avec une fille.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais.
Mais finalement, ça finissait par arriver quand même.
Ouais.
C'est peut-être pour ça aussi que les moments de ma vie, c'est plutôt les filles qui ont été proactives envers ouais. moi, et plutôt que le contraire.
Tu vois est-ce que tu as souvenir d'avoir déjà, le mot est fort, mais tu comprends ce que je veux dire, as-tu souvenir d'avoir déjà... saboter de beaux moments, mettons, avec une fille ou dans d'autres événements, par peur, par insécurité, t'aimais mieux quitter ou arrêter un moment que plutôt que ça aille plus loin parce que t'es insécure? Ou
ouais, j'ai probablement... C'est une très bonne question. Moi, ce que je faisais adolescent, parce que c'est là que ça... Tu sais, on apprend, là, c'est tout
oui,
ça.
Ben oui.
C'est biologique en plus, la testostérone veut t'éclater. Et puis, mais ce que je faisais, c'est que je matchais mon ami Normand avec la belle Danielle. Ils sont encore mariés aujourd'hui. Ça fait presque 40... Depuis 78 qu'ils sont mariés.
Wow!
J'étais le matchmaker. Puis j'ai réalisé en vieillissant que c'était beaucoup par insécurité. Tu sais. Uh-huh. Puis des fois, je faisais « Qu'est-ce que je viens de faire là? » Je viens de booker, matcher mon ami Marco avec la belle Dominique. Mais dans le fond, c'est moi qui craque pour Dominique. Tu sais, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, oui.
Ça, j'ai fait ça. Puis je pense que ça va dans le sens de ta question.
Tu sais. Ben oui. Puis, ouais. puis Lynn, ta belle Lynn, aujourd'hui, Lynn, ça arrive comment, ça, d'abord?
Lynn, c'est extraordinaire parce que c'est arrivé il y a quelques années. Donc, on refait notre vie, Lynn et moi, tous deux. Et c'est arrivé il y a quelques années parce que j'ai quitté la mère de ma fille. J'ai été 30 ans avec Sylvie. Lynn a été mariée pendant des années et des années avec Gary. Puis, elle a été en couple aussi avec Ben. Un de ses amoureux là, de longue date. Et puis Lynn, à un moment donné, moi je suis client, je vais le nommer, c'est pas pour faire de la pub, là. Moi je suis client chez Silver Star Mercedes pour mes voitures. Et Lynn, oui. Et Lynn était une assistante au personnel de vente à l'époque pour tout le dossier crédit, finance, tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Et moi j'allais négocier mes voitures, puis j'étais toujours assis devant le représentant, puis je regardais du coin de l'œil cette belle femme-là, des beaux grands cheveux blonds, puis toute bien élégante, puis approchait tellement un mélange de professionnalisme, de raffinement, mais très sexy aussi, tu vois ce que je veux dire? Et puis, écoute, Lynn a passé, moi j'ai passé des très mauvais moments, ça a été très dur, moi, de refaire ma vie au moment ouais. où j'ai pas eu le choix. Et Lynn aussi a refait sa vie sur le plan personnel, mais elle a aussi combattu le cancer avec succès, okay. le cancer oh. du sein. Et puis, tu mets tout ça ensemble, son papa à Québec meurt aussi, perd la vie de maladie. Et puis, à un moment donné, je vais négocier la fin du contrat de ma nouvelle voiture. Et Lynn et moi, on s'écrivait tout le temps des courriels. Parce que moi, je suis toujours à 200 000 à l'heure. Là. Souvent, j'arrêtais là en m'en allant à Dorval prendre l'avion avec le Canadien. Puis on n'avait jamais le temps de se parler. Mais je recevais toujours des courriels. Lynn Couture. Puis elle, Pierre-Houd. Puis à un moment donné, on me dit, pauvre Lynn, à travers des moments difficiles, je dis, je vais aller lui offrir mes sympathies, puis je vais aller lui offrir mon support. Alors, je rentre dans le bureau. Puis je dis, écoute, Lynn, je sais que tu traverses des problèmes. Je suis de tout cœur avec toi. Écoute, le courant électrique, toi. Lynn s'est levée, puis elle est venue chercher du réconfort dans mes bras. C'est incroyable. On est des clients, ouais. des fournisseurs. Puis elle me frotte le dos. Elle dit encore, elle en rit encore. Puis moi, je suis là, continue. Non, je l'ai pas dit. Et moi, dans ma tête, c'est continue. J'en ai besoin, moi aussi. Puis moi, je lui frappe le dos aussi. Là, à un certain moment. Puis là, on est dans le bureau, en plein milieu de la concession. Alors là, fait que là je dis, écoute, bon, on va reprendre un peu nos distances. Et là, pour la première fois de ma vie, j'étais capable de dire, écoute, quand tout ça sera passé, moi aussi, c'est dur ce que je passe. Si jamais tu venais prendre un verre de vin, on se parlera de ça, puis ça nous fera du bien. Et puis, quelques heures plus tard, j'ai reçu un courriel en me disant, voici tes détails pour ta nouvelle voiture, voici tout ça. Et incidemment, si tu veux toujours, j'accepterai d'aller prendre un verre avec toi. Et puis, là, elle s'est rendue à Québec au chevet de son papa qui est décédé. Et puis, lorsqu'elle est revenue, ben, on a eu un premier souper ici dans la petite Italie où j'habite maintenant. Et puis, on est ensemble depuis ce moment-là. Tu sais, le genre d'histoire, tu fais « Ah! » Je pense.
Hein? Hey, c'est cute,
une chanson de Joe Dassin. Tu sais.
On va mettre la toune 15 minutes, on fait une pause. Et on... Hey, mais c'est de toutes les beautés. Mais là, à ce moment-là, ouais. Premièrement, bravo parce que tu as pris les devants. Là. Petit Pierre n'était plus là. Là, c'est toi qui as pris les devants. Là.
Ouais, j'étais fier de moi. Là.
Mais là, quand tu lis son courriel, j'irais peut-être là, prendre un verre de vin. Ça
voilà, écoute, je sautais au plafond.
C'est sûr.
Ouais. Et puis, mais tu sais, il faut que tu sois prêt dans la vie pour ça, parce que c'est pas évident de refaire sa vie après des longues relations. Écoute, tu sais, tu passes la moitié de ta vie avec une personne. C'est pas évident pour Lynn, c'est pas évident pour moi. Et puis, tu sais, il y a beaucoup de gens, je pense, on le voit nous dans notre entourage à l'âge qu'on a. On voit beaucoup de couples qui se séparent.
Ouais.
Puis souvent, ça c'est en bon terme, hein. C'est pas. C'est juste parce que tu dis avec ce qui me reste dans la vie, tu vas le vivre. Prends ton temps, t'es pas encore rendu là. Mais t'arrives dans la soixantaine, là, tu commences à mesurer le temps qui te reste. Puis t'as pas le contrôle total hein, sur le temps qui te reste. Et puis donc, c'est plein de gens qui se séparent. Les enfants ont grandi, les enfants ont leur profession.
Ouais, ouais.
Et toi, tu t'en vas dans une autre direction. Mais il y a beaucoup de gens qui n'osent pas aller en couple.
Ouais.
Chacun a leur condo, puis on fait un petit voyage de temps en temps, puis on passe la fin de semaine ensemble, puis tu viens chez moi, je vais chez toi. Et puis, on retourne chacun chez soi. Nous, Lynn et moi, on a décidé de faire le pari tout de suite de vivre ensemble parce qu'on s'est dit, pourquoi perdre du temps? Tu sais, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Exactement. Mais on pense que ça va fonctionner. Et on l'a fait. Puis je peux dire une chose, on vient de survivre à la pandémie dans un 4,5.
Ouais.
Je peux dire une chose, on a des bonnes bases, disons.
Ben oui, totalement. Puis est-ce que, puis je veux pas, on est toujours en tout respect ici, si c'est trop délicat, allons pas là, mais est-ce qu'avec Sylvie, ton ex-femme, est-ce que vous le voyez venir les deux ensemble, que tu sais, les enfants grandissent?
Oui, et puis c'est ça aussi, ça fait partie du côté plate de la vie. On comprend trop d'affaires trop tard dans la vie.
Ouais.
J'ai réalisé, moi, qu'avec... écoute, je peux pas espérer une meilleure mère pour Michel. Puis je suis sûr que Lynn te dirait la même chose de Gary, son premier conjoint, comme père. Tu sais, il n'y a rien à redire. Mais ce qu'on réalise, c'est que souvent, on est très incompatibles au départ, puis on ne s'en rend pas compte. Puis trop souvent, on se dit, ah, ben c'est justement, les contrastes hein, s'attirent, puis c'est comme ça, ben un apporte un complément à l'autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, je pense que tu arrives à un certain moment dans la vie où tu réalises que si la base n'est pas là, puis c'est quoi la base? C'est le cœur, c'est le corps, c'est l'affection, c'est tout le courant affectif.
Ouais, ouais.
Si ça ne passe pas, ça ne sert à rien de s'étirer. Mais ce n'est pas évident de faire le saut, puis ce n'est pas évident quand il y a des enfants qui sont impliqués. Dieu merci, dans le cas de Lynn, puis dans mon cas, surtout dans mon cas, Michel a fait son parcours, et puis ça n'a pas eu à être déchirant comme ça. Donc, quand tu refais ta vie avec une nouvelle conjointe, puis ça va bien sur le plan familial, autant les enfants de Lynn que ma fille, ben c'est tellement agréable parce que c'est un gros souci de moins puis une grosse pression de moins.
T'sais. Oui, parce que quand tu te sépares d'avec Sylvie, Michel, j'imagine, est déjà rendu à l'âge adulte. Ou elle est déjà partie, oui, c'est ça.
Exact. Puis Michel, elle a été, elle a été très autonome. Même la fille de Lynn aussi, très jeune, elles ont eu leur expérience. Michel a voyagé à travers le monde dans son programme d'études en médecine. Tu sais, on l'a Moi, c'est peut-être moi le protecteur, le papa gâteau. Là.
Ouais, ouais.
mais on l'a quand même poussé parce que c'est une fille unique. On a, tu sais, quand tu n'as pas de référence de frères et sœurs, ben, c'est plus délicat. Hein? Alors, mais on s'est assuré quand même de lui donner des ailes, tu sais, puis de les sortir, ses ailes, puis de les utiliser. Et puis, c'est incroyable tout ce qu'elle a fait déjà dans la vie à 26 ans. Là, c'est incroyable.
Est-ce que tu parlais d'insécurité tantôt, que tu as ça depuis ton jeune âge, là, dans le sens que ça t'habite et tout ça? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu as pensé, ça, quand ta fille, quand Michel est arrivé au monde? Est-ce que tu t'es dit, entre autres, insécurité, c'est quelque chose que je voudrais pas retransmettre à ma fille? Est-ce que tu pensais à ces affaires-là?
Ouais, ben écoute, je vais t'avouer que moi, je suis le dernier à avoir eu des enfants dans les trois frères et sœurs, Paul, Joanne et Pierre. Puis Paul a des gars, ma sœur a que des gars. Puis moi, je disais souvent, je vais être le dernier, mais moi, je vais être celui qui va avoir une fille. Alors, une partie de la réponse, c'est que moi, je me voyais beaucoup plus confortable père d'une fille que père d'un gars.
Pourquoi donc?
Écoute, je sais pas. Je me voyais parfaitement à l'aise être papa d'une fille Michel. Parce que moi, c'était déjà dans ma tête, c'était Michel avec deux L. Bon, tu vas dire, c'est mon petit côté Beatles, là. OK, je l'avoue. Mais moi, Michel, LLE, c'était décidé. Et tu vois, c'est ce qui est arrivé. Donc, quand elle est venue au monde, l'insécurité venait pas de mon niveau de confiance comme papa. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais été vieux jeu. Moi, là, les couches, je m'envoie les mains dedans, puis let's go. Puis, tu sais ce que je veux dire, là, c'est...
Ouais.
J'ai toujours adoré ce côté-là. Et puis, écoute, on a eu un bon bébé, on a eu une bonne fille. Michel, elle s'est élevée tout seul, c'est pas compliqué. Jamais d'ennui, jamais de soucis. Fait que j'ai pas eu de grands moments d'insécurité. Mes insécurités ont peut-être été liées plus parfois au soubresaut professionnel que je vivais.
OK.
Comme celui qui apporte l'eau au moulin. Je vais te donner un exemple. Quand on se fait annoncer qu'on perd l'exclusivité du hockey, moi, j'ai eu la nouvelle à 7 heures le matin. Michel entrait au cégep à ce moment-là parce qu'elle avait déjà fait son choix d'aller en médecine. Et puis la nouvelle, quand on l'a reçue, c'était « Vous avez plus de hockey à RDS ». Et je me rappelle, là, j'ai reçu l'appel d'une station de radio de Québec qui voulait avoir mes réactions en ondes. Puis je me rappelle là avoir été très insécure. Mais là, tu parles d'une insécurité beaucoup plus sur le plan matériel, sur le plan de structure, sur le plan de structure matérielle
ouais.
de la famille, parce que je vais être capable de procurer ce qu'il faut, et ainsi de suite. Alors, mais comme papa, je dirais que j'ai jamais été insécure, sauf que j'ai dit à Louis Morissette l'autre jour, mon tabarouette, j'ai regardé ton documentaire, puis là, j'ai hâte de voir son film sur la famille parfaite. Mais je sais pas si tu as vu le documentaire.
Mais j'en ai entendu parler, ouais.
Écoute, tu finis d'écouter ça, puis là, tu fais, mon Dieu, je suis donc un père marrant, je suis épouvantable. Là, j'ai appelé Michel, excuse-moi. Excuse de quoi, papa? Mais non, je viens de regarder le documentaire de Louis Morissette, c'est épouvantable. J'ai-tu été comme ça? Ben non, on va dire, rassure-toi, t'as été correct. Alors, puis je regarde aujourd'hui, parce que c'est un beau mélange aussi. Un beau mélange. Elle a un gros côté artiste. Comme médecin. Puis elle a déjà fait d'ailleurs un peu de radio puis un peu de télé pour des causes précises.
OK. Puis là, mais là, elle a choisi la médecine.
Elle a choisi la médecine, mais elle a choisi la santé publique. Imagine-toi. Ah. Tu vas me dire quelle coïncidence.
Ouais, c'est ça.
Il faut être convaincu de choisir la santé publique.
Vraiment.
C'est probablement la branche de la médecine qui est la moins subventionnée, qui est la moins soutenue. C'est pas sexy, c'est pas jazzy. Il faut vraiment que tu aies une grandeur d'âme presque un peu naïve pour aller là-dedans. Mais Michel, elle s'est toujours vue là-dedans. Elle considère que ça en prend des passionnés qui vont en santé publique pour travailler la médecine à ce niveau-là plutôt que la travailler sur ce niveau-là. Et elle est en train de faire sa résidence, sa maîtrise présentement. Puis elle est très heureuse dans son parcours. On est très fiers d'elle.
Et qu'est-ce que ta fille retient de toi que t'es fier? Et qu'est-ce que ta fille retient de toi que t'es comme, ouais, ça, c'est un défaut que t'aurais pu pas avoir, puis...
ben, écoute, l'angoisse, l'insécurité, ça, c'est sûr. Michel, elle le sait qu'elle a ça dans ses gènes, un peu, tu sais. Par contre, je te dirais que ce qu'elle... si tu jasais avec elle, Tu le verrais tout de suite. Je pense qu'elle est très fière aussi de son talent de communicatrice. Puis tu sais, en santé publique, ça va l'aider parce qu'elle va côtoyer qui dans sa vie? Elle va côtoyer des grandes organisations de la santé. Hey, écoute, elle a été porte-parole des étudiants du monde entier à l'OMS, à Genève. Ouais. C'est elle qui a parlé, là. C'est elle qui a parlé au nom de tous les étudiants du monde entier. Puis moi, j'avais la chance de regarder ça en direct. Il y avait un site web de l'OMS.
Ah oui, hein?
On pouvait regarder ça. Je t'ai dit que j'étais fier pas à peu près.
Alors, t'es-tu ému?
Très ému, évidemment. Ouais. Moi, je suis un gros sensible et un grand sensible. Tu sais, j'écoute trop melon, je pleure encore, là, tu sais. Mais pas en écoutant Joe Dassin, par exemple. Le bouquet d'églantine, moi, je ne fais pas... Zay, ça ne me fait pas pleurer. oui, j'étais très ému, mais très fier aussi. Puis l'autre film conducteur qu'on a, c'est la musique, hein, parce que... Hey, attends, il faut que je te montre quelque chose. Tu m'attends 6 secondes?
Ben oui, prends le temps, vas-y. Ben oui, vas-y. Vas-tu me sortir un accordéon, une trompette, un saxophone alto?
J'espère que tu vas bien le voir. Attends, je vais essayer de...
Un guéro?
Bien le montrer. Attends.
Ça va être quoi, Pierre?
Attends, est-ce que tu peux lire ce qu'il y a sur cette plaque? Est-ce que nos amis peuvent le lire?
Il y a un petit reflet. Je vois professeur là, de musique.
Voilà. Et... Bon, ben ça, là, Charles A. Hood, c'est mon arrière-grand-père.
Ah ouais?
Et il était, crois-le ou non, là je te parle d'un arrière-grand-père que je n'ai pas connu. Là. Il avait son appartement, puis il avait son école de musique sur la rue Saint-André à Montréal.
OK, oui.
Et c'était quelque chose, gagner sa vie comme prof de musique à l'époque. Et puis, il était multi-plateforme, il pouvait jouer l'orgue et le piano, mais le saxophone aussi et tout ça. Et puis la musique, ben, ça s'est passé dans les gènes de la famille. Et Michel Eleza, elle est une clarinettiste extraordinaire. Et puis mon père, à 95 ans, avant la pandémie, faisait encore du big band une fois ou deux par semaine, saxophone et clarinette. Ah. Et puis moi, ben, je joue de la batterie, je joue du clavier aussi. Bref.
Oui.
Ouais. Alors, malheureusement, j'ai pas d'orchestre, j'ai pas de band, mais disons que. Alors, il y a ça aussi, tu sais. Il y a tout ce côté artiste qui vient. Qui vient du volet Oud et qui remonte aussi loin là, que mon arrière-grand-père, prof de musique, puis je garde sa plaque très jalousement dans mon bureau ici. Là.
Est-ce que, deux choses, premièrement, est-ce que tu chantes aussi?
Pas très bien. Je ne suis pas un naturel. J'ai été obligé de chanter. On s'est fait un band à RDS. D'ailleurs, je suis en train de transférer des vieux vidéos. On a eu un band. Écoute, il y avait Bertrand Houle qui jouait de la basse.
Hey.
Paul Buisson, que tu as peut-être connu, malheureusement, Paul qui est décédé. Paul est un batteur extraordinaire. Puis, parce qu'on avait notre drummer, ben, je disais, OK, moi, je vais jouer des claviers. Tu sais, tu me donnes un clavier, puis tu me donnes les accords de guitare, je peux très, très bien me débrouiller sur le clavier, mais personne ne voulait chanter. Je disais, OK, je vais chanter. Mais pour moi, c'est un effort. Tu vas être surpris, hein? Un qui chante très bien, c'est Paul.
Ah ouais?
Paul, il peut chanter du Aznavour, là. Probablement qu'il est dans le même niveau d'octave. Là. Et puis, mais moi, mon instrument naturel, c'est la batterie. Vraiment. Je suis un drummer.
Je suis en train d'assimiler l'image de Pierre Roune sur un drum. Là, ça ne sera pas long, Pierre. Laisse-moi une seconde. Attends. T'as tes baguettes. Tu t'as fait flipper.
Non, mais celle-là, c'est un cadeau que j'ai eu par les agents de bord. Tu sais, nous, on voyage avec la division Nolisement d'Air Canada. Là, oui. Tu vois l'avion en haut, là. Tu vois le modèle réduit en haut, peut-être, sur mon
oui, lit? Oui, oui, oui.
Alors,
oui.
Ça, c'est un cadeau qu'ils m'ont fait. Est-ce que tu sais qui a signé cette baguette? Un certain Chester Thompson.
Ah, OK, juste lui.
Juste Chester Thompson, tu sais. le grand Chester Thompson, le batteur qui a accompagné, entre autres, Phil Collins dans tous ses concerts. Parce que quand Phil a commencé à chanter, il n'était pas comme Don Henley. Il a un petit peu plus de misère à jouer de la batterie et à chanter en même temps.
Ah, ouais.
Et puis... Ça aussi, je garde ça précieusement. Quel beau cadeau. Je suis un fan fini des grands drummers de l'histoire, à commencer par Buddy Rich et puis Gene Krupa, puis évidemment Charlie Watts et Ringo Starr, puis là, ben, les drummers de. Puis John Bonham, que j'essayais d'imiter avec mon band au secondaire. On avait un band rock.
Arrête d'en!
Ah oui, on jouait du Led Zeppelin, puis du Rare Earth, puis du Grand Funk. Puis
c'était quoi le nom? Le nom de votre band?
Épouvantable. On s'appelait. Là. Tu vas éclater pendant 5 minutes. Alors, prenez une pause. Ça va éclater pendant 5 minutes. On s'appelait, et tu ben assis, les bolcheviks.
Mais pourquoi?
Ben, je ne sais pas. Tu sais, c'est quoi un bolchevique? Tu sais, les révolutionnaires russes à l'époque, les bolcheviques, on trouvait que ça faisait révolutionnaire, ça faisait différent. Et puis, on dit, on va s'appeler les bolcheviques.
Wow,
je remets, regarde, tu vois, je suis un vieux drummer parce que je joue la main droite comme ça, mais je joue la main gauche comme ça, comme Charlie Watts.
Voyons, toi.
Ouais, ben ça, c'est la vieille façon. Quand on apprenait la batterie, on apprenait à drummer comme ça parce que, tu sais d'où ça vient, hein? Ça vient des fanfares à l'époque.
Oui.
Tu sais, les caisses claires que tu as sur toi avec la courroie qui retient.
Oui.
Tu peux pas jouer comme ça. C'est physiquement, c'est impossible. Alors, il fallait que tu puisses jouer comme ça. Puis, les profs de batterie t'apprenaient à jouer comme ça. Et puis, il n'y en a plus beaucoup de batteurs qui ont cette technique-là aujourd'hui. Là, c'est plus avec les deux mains droites.
Je t'ai encore stické, c'est bolchevique.
je savais. Écoute, ça n'a aucun sens. Les gens disent, pardon, pouvez-vous répéter? Oui, les bolcheviques.
Mais là, tu as joué combien de temps que ce groupe rock-là? Là?
Ah, ben, 2 ans, tu sais, secondaire 4, secondaire 5. Et puis après ça, ben, ça a été le cégep. Après ça, ça a été différent. mais RDS, on a eu un très bon band, donc. Et puis, on a fait des parties de Noël. Et puis, on a déjà fait une ou deux diffusions publiques au gala de la fête sportive, notamment. Ouais. On avait des très bons musiciens. Écoute, on a un de nos directeurs techniques qui s'appelle Marc Vigé, qui est un merveilleux guitariste. Paul, comme je te dis, était tout un drummer, Paul Buisson. Alors, on a eu beaucoup de plaisir, mais tu sais, à un certain moment, on a eu tellement de plaisir, puis on était tous des musiciens. Puis, tu ne peux pas aller plus bas que les standards que tu veux. Puis, pour respecter tes standards, il faut que tu répètes, puis tu répètes, puis tu répètes, puis tu le sais, tu fais du spectacle. Alors, on n'avait plus le temps de répéter, et puis on faisait toujours de plus en plus de hockey à RDS, de plus en plus de voyages, et puis en bout de ligne, ben, qu'est-ce que tu veux? On est obligé d'arrêter, mais à regret.
Puis tu étais dans mes belles années d'adolescence, et même encore aujourd'hui, là, dans un party, peu importe, là, mettons, je vais voir Pierre-Aude à 1h30 du matin, il est comment, Pierre-Aude, il est-tu très, très cocktail, il est-tu à quatre pattes la face dans la toilette, comment ça se passe? Hein?
écoute, non, je vais t'avouer que je suis vraiment très chanceux, parce qu'au-delà d'un côté insécure, j'ai un côté peureux.
OK.
Et puis en même temps, je suis un amoureux de la vie. Appelle ça épicurien, hédoniste, appelle ça comme tu veux. Je suis un amoureux de la vie. Fait que quand tu es amoureux de la vie, tu es amoureux des bonnes choses de la vie, puis tu deviens, oui, c'est passionné, puis c'est passionnant, mais tu deviens vulnérable aussi. Puis moi, j'ai toujours eu peur de ce qui est trop tentant.
Ouais.
Là, tu vas rire de moi, là, OK?
Moi,
à part la fumée secondaire des autres avec leurs petits joints, c'est le plus loin que je suis allé.
Ben,
jamais voulu traverser la ligne.
Pierre, je vais pas rire de toi, j'ai la même histoire que toi.
Bon, ben écoute, ça me touche, ça me rassure. je vais t'avouer que quand j'allais voir des shows au forum, la fumée secondaire, puis je parle pas des cigarettes, j'haïssais pas ça, là, comprends-moi bien. Je me rappellerai toujours, le dernier show, on avait le droit encore de fumer, n'importe quoi, j'étais allé voir les Guess Who en réunion, ils faisaient leur tour de réunion, et puis... Je te dis que rendu à la 12e chanson, je commençais à aimer ça pas à peu près. Mais je n'ai jamais voulu aller plus loin que ça. Et ça, c'est vrai dans les boissons, c'est vrai dans l'alcool, c'est vrai dans la drogue, c'est vrai dans les médicaments. Je n'ai jamais joué sérieusement au casino. Puis je ne juge pas personne, comprends-moi bien, Sam. Mais je vais au casino, quand on va à Détroit, parfois on reste dans le MGM Hôtel et Casino. Puis là, je descends, puis là, j'ai 5 piastres. Puis là, je joue dans les machines à un sou. Là, vous voyez, j'ai gagné 2 piastres et quart. Je m'en vais l'encaisser. Puis là, Marc, il dit, t'es pas à l'encaisser 2 piastres et quart. Oui! C'est le plus que je fais. Je sais pas si tu comprends ce que... J'ai peur.
Ben, je parais comme toi.
J'ai peur d'être accro à quelque chose. Mon plaisir dans la vie, c'est le vin. Puis encore là, tu sais, j'en prends tous les jours, je m'en cache pas, je prends quelques consommations tous les jours, ça fait partie de mon rythme de vie. Pour célébrer, des fois, je vais être capable d'aller plus loin. Je prends une petite bière de temps en temps, mais c'est tout. J'en ai assez comme ça, d'être un peu feeling avec mon deuxième ou troisième verre de vin dans une soirée. J'aime beaucoup après un match, j'arrive ici, je suis pas capable de dormir après un match de hockey ou même après un voyage. avec le Canadien. J'arrive, je m'installe d'où je te parle. Là, je me suis fait un petit boudoir derrière.
Ouais.
Je ferme la porte pour ne pas réveiller Lynn. Et puis, je mets la télé. Puis j'espère la plupart du temps tomber sur des infos pubs de Chaudron puis de Poilon, parce que ça, ça me détend. J'en ai même déjà acheté, je te raconterai ça tantôt. Lynn! Lynn! Je pense qu'il y a dehors. Je voulais te le montrer.
Bon. Hostie, Pierre, je t'aimais déjà. Là, là je t'en amour.
Mais, alors, mais, OK, mais je te raconterai ça. Bref, non, tu ne me verras pas souvent à quatre pattes. L'autre chose, Sam, c'est que j'ai une peur raisonnable de ne jamais tenir le volant à l'intérieur d'une limite. Puis moi, là, ça souffre. Tu sais, faire mon alco-test personnel, tout ça. Écoute, surtout maintenant, depuis que j'habite en ville, Uber, les taxis, une limo de temps en temps, si c'est à 2h du matin pour un party. Alors, j'ai très peur aussi de ça. Fait que j'ai un côté peureux qui probablement m'a sauvé la vie, plus souvent qu'autrement. Paul, parfois, comme grand frère, m'a empêché de faire une gaffe ici et là, mais probablement que ma peur de trop bonnes choses m'a probablement très bien servi. Là, tu veux que je te parle de mon copper chef. Hein?
Oui, mais attends un peu.
Là, si Lynn m'entendait, je pourrais demander de te l'apporter parce que ben, je te ferais la preuve.
On va espérer qu'elle rentre de dehors dans les 5 prochaines minutes. Alors, je vais te poser une question avant parce que je tisse toujours des parallèles. Tu as dit au début que tu étais papa gâteau, papa poule. Comment tu le gères, ça, avec ta fille à l'adolescence? Étais-tu comme toi ou ben non, elle était plus party-party?
Comme moi. Vraiment. Okay. Et c'est pour ça que ça a été facile avec Michel. Oui. Puis elle n'est pas plate, là. Michel, elle a de l'humour, elle est drôle. Puis elle aime prendre son petit shooter de tequila aussi. Tu sais, c'est plus jeune. Là. Les shooters, j'ai pas connu ça. Nous autres, les jeunes, c'est les shooters. Nous autres, on allait acheter du cidre de pomme avant d'aller à la danse à Saint-Vincent-de-Paul le vendredi soir dans le dépanneur en face. C'était tellement mauvais en plus. Bref. Alors, mais Michel n'a jamais eu de mésaventures de cette nature-là, sans être une fille plate. Là.
Ouais.
C'est une grosse nuance quand même. Alors, on a eu, c'est la Providence vraiment qui nous a aidés là-dessus.
est-ce que tu as hâte d'être, ou est-ce que tu as hâte ou est-ce que tu espères avoir le rôle, le titre de grand-père un jour?
Hâte, non, mais je suis sûr que je vais être aux oiseaux quand ça va arriver.
Comment ça, t'as hâte?
Okay. Ben, non, j'ai hâte, mais je suis pas pressé. Okay, j'anticipe avec bonheur quand ça va arriver, mais je suis pas pressé.
Je comprends.
OK. Je me sens tellement jeune encore. Lynn est pareil. Tu sais, on a des grands-enfants qui pourraient là, commencer tranquillement. Puis Michel, il faut dire aussi, c'est que son amoureux est un Panaméen, étudiant en médecine.
OK. Et
Gray est encore là-bas au Panama. Hein?
OK, ouais,
c'est un amour à distance. Et puis, de temps en temps, ben. Puis là, la pandémie a empêché Gray de venir passer quelques semaines ici, a empêché Michel d'aller voir son amoureux aussi. Ouais. Alors, c'est peut-être un contexte où on est moins là, c'est moins conventionnel, disons.
Je comprends.
Mais quand ça va arriver, c'est sûr que ça va être, comme on dit, cul par-dessus tête.
Pierre, si tu veux, si ça te démange, tu peux aller chercher ton chaudron, ta poêle ou fouille-moi quoi.
Alors, ben, je vais te raconter l'histoire, puis si c'est pertinent, j'irai la chercher.
Ben, sinon, si Lynn n'est pas de retour avant, d'ici la fin, tu nous le demandes, c'est sûr.
Bon, OK, parfait. Alors, tu pourras faire du montage, de toute façon. Tu pourras enlever la minute où je ne suis pas là. Tu pourras couper dedans.
je vais parler pendant ce temps-là.
Oui, c'est ça. Alors, écoute, donc...
Mais là, attends un peu, Pierre, je me suis... Là, raconte-moi, avant d'aller dans les annonces d'infopub de 4-5 minutes que tu aimes, raconte-moi un peu un retour du match du Canadien. Tu arrives chez toi, tu fermes la porte pour ne pas réveiller Lynn, tu prends une coupe de vin.
Un retour de voyage. Parce que
le voyage.
À moins qu'on soit sur la côte ouest, je te dirais qu'aussi loin qu'à Dallas, on revient à Montréal après le match.
OK.
Alors, donc, ça peut parfois, bon, avec des permissions spéciales qu'on a de la tour de contrôle à Dorval, ça nous donne des fois des arrivées à 2h du matin, 3h du matin. Et puis, Danny Dubé et moi, moi, j'habitais sur la Rive-Nord à l'époque, on partageait une voiture qui nous attend sur le tarmac, et parce que les agents de douane viennent à bord de l'avion, prennent les cartons de douane, et puis on descend directement sur le tarmac, non pas au terminal principal, mais ce qu'on appelle un FBO à Starlink. Et donc, ça peut être aussi tard que 2h du matin, 2h30 du matin. La plupart du temps, je ne veux pas dormir.
Ah ouais.
Alors, j'ouvre la télé et là, je te fais mon aveu. Je te dis, je t'en dis des affaires. Là. Je te fais l'aveu que moi, ce qui me fait craquer, mais vraiment, ça c'est psychotronique, là. Ce qui me fait craquer, ce sont des infopubs de patentes de cuisine.
C'est toi, ça, ces gens-là. C'est toi, ça.
J'en ai tellement regardé. Et puis, je pourrais quasiment toutes les faire par cœur.
Arrête donc!
Et à un certain moment, il y avait vraiment, mais vraiment, un blitz. Peut-être que c'était un peu avant la période des fêtes pour le Copper Chef. Et là, c'est toujours évidemment le chef machin chouette qui fait, qui utilise le poignon Copper Chef. Puis là, et puis il y a évidemment l'animatrice à côté. Tout ce qu'elle fait, c'est « Oh my God! So good! Bon, » tu vois ce que tu vois le genre. Alors, j'écoute d'ailleurs la version originale anglaise la plupart du temps, et non pas, tu sais, la voix qu'on entend tout le temps.
Oui.
Seulement 4 paiements faciles. D'abord, c'est quoi un paiement facile?
Ça dépend des gens.
Par rapport à un paiement difficile, en fait, prends-y, si tu as la réponse, tu me la donneras. Toujours est-il que j'écoute ça, puis j'ai mon verre de vin, puis là, je suis là. Ah ben ouais, ça a tellement l'air bon. Non, mais ça a tellement l'air d'un poêlon incroyable. Non, mais sérieusement, un 800.
Non!
Oui, allô? Oui? Écoute, je ne sais pas, je suis à une centrale téléphonique peut-être au Dakota du Nord. J'ai aucune idée où est-ce que j'aboutis. Et là, ben écoute, tu comprendras que, ah, vous voulez acheter le Copper Chef? Oui, je veux le Copper Chef. Exactement ce que je vois à la télévision. Saviez-vous aussi qu'on a le poêlon plus petit, plus mince? Mettez ça dans la boîte. OK, parfait. Hey, est-ce qu'on peut vous offrir le panier pour faire les frites que vous pouvez mettre dans le Copper Chef? Envoyez ça dedans aussi. Écoutez, pour quelques dollars de plus, on a aussi les ustensiles qui viennent avec. Mettez ça dans la boîte également. Et puis, est-ce qu'on pourrait vous envoyer le truc pour faire des légumes vapeur? Mettez ça dans la boîte. Finalement, je commande tout ça. Écoute, ça m'a coûté je ne sais pas combien. Le lendemain, mon épouse de l'époque me dit « À qui tu parlais à 3 heures du matin?
» C'est pas tes câlisses d'affaires.
« À qui tu parlais à 3 heures du matin? » J'ai dit « Je parlais à la téléphoniste du Copper Chef. » Oui. Je parlais à la téléphoniste pour acheter un Copper Chef. Et là, elle dit « C'est quoi un Copper Chef? » J'avais enregistré l'infopub. Je dis, viens voir l'infopub. Et là, évidemment, c'est quoi la deuxième réaction? En as-tu besoin de ça? Non, pas besoin de ça. Mais c'est acheté. Mais je dis, fais-toi-en pas. Ça arrive dans une petite boîte, c'est discret. Ça prend pas de place. T'aurais dû voir la boîte. Ça prenait pratiquement un diable pour apporter, pour sortir la boîte. Alors, une fois j'ai craqué, j'ai acheté le poêlon Copper Chef, mais que j'ai encore d'ailleurs et que j'utilise encore régulièrement.
Est-ce que c'était bon?
Parce que ça fait le travail. Écoute, ça a toujours l'air de bien meilleure qualité à la télé, n'est-ce pas? Mais effectivement, pour une fois, là, c'était pas un produit médiocre. Disons-le comme ça. Alors, tu vois, je l'ai encore.
Est-ce que tu utilises la poêle plus petite, plus mince?
Non, mais celle-là, je l'ai mis aux poubelles parce que celle-là, elle prenait l'eau. Tu sais, dans le manche. L'eau s'infiltrait dans le manche. Alors,
est-ce que tu prenais le panier pour mettre dans la friteuse?
Alors, le panier, je ne fais pas beaucoup de friture. J'essaie de faire très attention à ça. Je fais plutôt de la friture par air chaud là, maintenant. Là.
Ouais.
Mais alors, je m'en sers comme égouttoir. C'est un truc pour égoutter les pâtes.
Oui.
Alors, j'ai tout ça encore. Alors, tu vois, je suis bon vendeur. Puis, il y a un petit couvercle en verre dessus. Et c'est vraiment copper. C'est vraiment en bronze. Là, tu sais, là.
Puis il m'en manque un. C'est quoi l'autre affaire? Est-ce que tu te sers aussi?
Les ustensiles, ça, je les ai encore. Les ustensiles, je les ai encore.
Puis je le vois que tu es content. Là. Je le vois.
C'est-à-dire que j'ai du plaisir à raconter ça parce que, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que dans ma routine, dans mon biorhythme et dans la vie, écoute, c'est compliqué quand même la vie, l'agenda professionnel, de décrire 60 matchs de hockey par année, plus, plus d'autres voyages. C'est très honnêtement, puis je le dis en toute modestie, c'est pas donné à tout le monde.
Non.
Il faut se connaître très bien pour adapter sa vie pour passer au travers. Puis moi, ça fait 33 ans quand même. Là. Mm-hmm. Et ceci dit, j'aime l'aviation, je suis pilote. Alors, moi être en vol, c'est un cadeau pour moi être en vol. Puis parce qu'on est en vol nolisé, puis avant tous les problèmes de terrorisme et tout ça, ben j'étais toujours dans le cockpit avec les pilotes. Et puis pour moi, c'est un bonheur parce que je suis pilote moi-même. Donc ça, c'est pas un problème. Je dors assez bien dans les hôtels. On a des gymnases dans tous les hôtels. Marc est un peu mon gourou de mise en forme. Marc, il s'entraîne tout le temps, puis il me pousse, puis viens-t'en, Pierre, oublie pas de faire ton workout aujourd'hui et tout ça. Alors donc, tout ça, on a des saines habitudes, mais une chose qui est sûre, c'est que tu peux pas forcer le sommeil. Il faut vraiment faut que tu ailles au lit quand tu peux aller au lit, puis tu vas dormir. Je pense que j'entends Lynn. Lynn! Est-ce que tu pourrais apporter le Copper Chef, s'il vous plaît? Elle dit non, c'est pas vrai.
Oui.
Elle dit non, pas encore. Non, c'est pas vrai. Il y en a pas le petit panier à frites aussi. Et là, je t'ai montré la baguette de Chester Thompson. Je t'ai montré la plaque de mon arrière-grand-père. Là, elle dit, c'est sérieux, là. Non, ben c'est ça. Il dit, Sam disait, si jamais elle entre, tu lui demandes.
Regarde. Allô, Lynn.
Là, on est vraiment en onde pour vrai. Là. Alors, regarde ça, c'est beau. Regarde.
C'est de toutes les beaux.
Regarde, il y a l'inscription Copper Chef dessus. Et regarde!
Le petit panier.
C'est comme chez Patati Patata ou je ne sais pas. Là, les frites à l'or. Regarde, un vrai beau petit panier. Merci, Lynn. Hey, on a l'air d'un infopub, là. Lynn, il faut que tu fasses... C'était...
Regarde ton numéro, je vais appeler pour commander.
Mais écoute, je te promets que t'es sur mon héritage, t'es sur mon testament. C'est sûr que c'est toi qui hérites du Copper Chef. Ça, c'est fait. C'est béton.
je vais avoir Michel, ta fille, qui va m'appeler. C'est-tu toi qui as ça? Parce que je ne l'ai pas dans mon stock.
Elle dit, écoutez, vous êtes qui, vous, monsieur S? C'est sûr. Elle dit, écoutez, je ne reconnais pas votre nom, mais c'est vous qui êtes le testament de mon père. Vous héritez de son Copper Chef. Hey, écoute.
Tabard.
Tu ne t'attendais pas à ça.
Hein? Non, je ne m'attendais pas à ça. Tabarnan. OK. Et je voulais te... Ben, merci pour ce beau moment-là. Ça, c'est certain que ça, je n'oublierai jamais
c'est,
ça.
C'est l'intimité, là, quand même. Hein?
C'est de l'intimité. Et pour revenir à ta passion des avions, d'être en plein vol, c'est-à-dire, est-ce que tu as aussi la passion de Paul, qui est de reconnaître tous les moteurs d'avions de sa monde? Oui, toi aussi?
Oui, absolument. Puis ça vient de notre père.
Voyons!
Mais ça vient de notre père, puis ça vient de... En fait... Ça vient de notre père par ricochet. C'est parce que nous, on est nés à Ville-Saint-Laurent.
Oui.
Mais on a déménagé très jeune. Moi, j'avais un an et demi quand mes parents ont acheté la maison familiale à Laval, dans le quartier du Vernet, à Laval. Okay. Mais Saint-Laurent, c'est la souche des deux familles, Oude et Achin Beaulieu. Et nous, on allait à Ville-Saint-Laurent tous les dimanches chez ma grand-mère. Le mari de ma grand-mère est décédé très jeune des suites de la guerre et de la première guerre. Puis moi, je ne l'ai jamais connu, mon grand-père. Ma mère n'a même pas connu son père. Donc, c'est un petit noyau familial. Tu avais les deux filles, ma mère et sa sœur, puis leur mère. Et on allait toujours tous les dimanches et sur la rue Filiatreau, qui est juste en face du collège Saint-Laurent. Tu sais où est le cégep, évidemment.
Oui.
Tu as déjà fait la salle Émile Legault, probablement, non?
Fort probablement. Les noms de salles, moi, c'est quand je vois la salle que j'allume.
Oui, bon, ben, c'est la belle salle de la chapelle, en fait, là, du Collège Saint-Laurent à l'époque, l'ancien collège qui est le cégep maintenant. Et puis ça, écoute, tu es en ligne, exactement en ligne, à peu près à 1000 pieds d'altitude, avec la piste 2-4 gauche à Dorval. Alors moi, depuis que je suis enfant, avec Paul, on voit les avions passer, puis on voit les avions passer. Puis là, on les regardait. Puis là, le défi qu'on se lançait à l'époque, c'était d'essayer de reconnaître les immatriculations en dessous des ailes. Alors, F, ça, c'est France. OK, c'est Air France qui arrive. PH, c'est KLM. KLM, c'est Amsterdam qui arrive. CF ou CG, bien évidemment, c'est toutes les lignes aériennes canadiennes. Puis, à l'époque, à Dorval, tu pouvais, crois-le ou non, tu pouvais aller, ça coûtait 10 sous pour le tourniquet, tu pouvais sortir dehors. Puis il y avait une passerelle dehors qui te permettait d'admirer les avions à écoute, juste au-dessus des avions. Puis, tu sais, il n'y avait pas de crainte. C'était l'innocence à l'époque.
Ah, ben ouais.
Crainte de terrorisme et quoi que ce soit. Et puis là, des fois, mon père disait, les boys, on s'en va à Dorval. Yeah! On s'en allait à Dorval. Puis, on allait passer 2 heures à côté sur la rampe, dehors. Puis là, Paul, hey, c'est un Vanguard qui arrive. Non, c'est un Viscount. Ah, regarde la constellation de Nordair. Puis là, on allait chercher les horaires en papier. Bon, on collectionnait les horaires des compagnies aériennes. Et puis, ben, ça a d'abord été Paul, parce qu'il y a 3 ans de plus vieux. Et puis moi, ben écoute, quand t'es arrivé, quand j'ai eu le coup de cœur final, j'ai pris mon cours de pilote et j'ai eu ma licence. Je ne pilote plus parce que on a vendu l'appareil, mon partenaire et moi, parce qu'on a fermé l'aéroport à Mascouche où on était basé.
Okay.
Et puis, mais j'ai quand même 400 heures de vol. J'ai mon brevet de nuit. J'avais commencé ma licence aux instruments et tout ça. C'est pour moi, je me suis toujours dit, ben la vie est claire là. Soit que j'aurais été heureux dans une cabine de commentateur ou soit que j'aurais été heureux dans une cabine de pilote.
Oui, oui, totalement.
Ouais.
Ben, dans les deux cas, tu es aux commandes, c'est un poste important là, quand même. Fait que...
Il y a des similitudes. J'ai été une quinzaine d'années sans piloter. J'ai recommencé, j'ai réactivé ma licence quand Michelle était assez grande, quand elle pouvait voler de ses propres ailes.
Ouais.
Et puis là, je vais te dire, j'ai eu tellement plus de plaisir parce que là, je l'ai fait avec grande passion. Puis ce que j'ai adoré, c'est que j'ai réactivé ma licence à une école à Dorval. Et là, j'ai appris à piloter avec les big boys. Là, t'es en Cessna 172, mais t'apprends à t'intégrer avec les 777, avec les 747, avec les big boys. Puis les contrôleurs à Dorval t'intègrent entre le gros trafic aérien. Et puis je suis devenu très à l'aise à communiquer avec la zone terminale et tout ça. C'est la hantise de la plupart des pilotes privés. Moi, je m'amusais comme un fou. Je faisais exprès pour venir dans la zone terminale pour pouvoir communiquer avec les gens. Alors, c'est vrai que j'avais une très grande aisance dans ce contexte-là, qui vient de la passion qu'on a aussi.
Wow! Puis qu'est-ce que tu aimes le plus quand tu embarques dans l'avion? Est-ce que c'est justement quand tu embarques dans l'avion, quand tu décolles, le vol, l'atterrissage ou tu aimes la totale? Y a-t-il quelque chose qui ressort un peu plus?
Très, très bonne question. Ce qui ressort le plus... Parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est quand tu fais ce qu'on appelle en anglais un « kiss landing », c'est-à-dire un atterrissage parfait.
Ouais.
Parce que, bon, si tu as des passagers, qu'est-ce qu'ils retiennent? Ils ne retiennent pas le décollage. Le décollage, je ne sais pas si tu as déjà touché les commandes d'un avion.
Non, malheureusement.
Ben, le décollage, c'est ce qu'il y a de plus facile. On te montre ça. Tu décolles à ton premier cours. Parce que dans le fond, pleine puissance, à une certaine vitesse, tu tires un peu sur le manche puis tu décolles. L'atterrissage, c'est très complexe parce que ça se fait au feeling, ça se fait à basse vitesse. Tu es toujours à la limite du décrochage, puis c'est très sérieux. Là. C'est très limite tout le temps, l'atterrissage. Tu dois arriver à une vitesse la plus basse possible. Donc, en situation de portance, tu es toujours vulnérable. Puis, il faut toujours que tu regardes ton seuil de piste, il faut que tu regardes ta mesure de vitesse parce que tu ne veux pas décrocher ton appareil. Et puis évidemment, ben, plus tu as de l'expérience, plus tu fais ton arrondi au bon moment, plus tu tires comme il faut, plus tu retardes un peu. Parfois, tu donnes un peu les gaz. Puis là, quand tu fais un superbe atterrissage, puis en plus, quand tu as un vent de travers, là, tu vas d'abord poser ta roue à l'opposé du vent. Là, tu es content. Là, c'est vraiment le fun. Mais un des plus beaux feelings que j'ai eu aussi, c'est quand j'ai eu le droit de voler la nuit en pénombre. Les conditions de vol sont tellement calme et douce.
Ouais.
Des fois, là, j'attendais que le soleil se couche à Mascouche. J'allais préparer l'avion. 9h15, je décolle. Là, je m'en allais tout le long du fleuve. J'allais me poser à Trois-Rivières. Je prenais une gorgée d'eau à Trois-Rivières. Je décollais, je m'en allais à Bromont. Puis là, ben, dans les plus petits aéroports, c'est toi-même qui ouvres les lumières de piste avec une fréquence.
Tu cliques
5 fois, puis les lumières de piste allument. Et là, c'est extraordinaire. Les lumières de piste allument. T'es dans la pénombre totale à Bromont. Puis là, je m'assoyais sur mon aile avec une bouteille d'eau. Et puis, parce que j'avais un aile basse, j'avais un Piper. Et puis là, j'écoutais le silence. Vraiment. Là, je décollais. Puis là, ben, des fois, je demandais au contrôleur à Dorval, est-ce que je peux faire le circuit Ville-Marie? Le circuit Ville-Marie, c'est un circuit, disons, visuel, touristique, entre guillemets, pour apprécier le Mont-Royal et le centre-ville. Alors, s'il te donne la permission, tu dois respecter les balises de ce circuit-là, mais là, tu te promènes autour du Mont-Royal, puis tu vois les édifices du centre-ville. Puis, Et imagine-toi le soir, c'est absolument incroyable. C'est des très, très beaux moments de profondeur personnelle. Uh-huh. Ce sont des occasions de détente, mais de très, très grand sérieux en même temps. En te disant que c'est pas toi qui as le dernier, c'est pas toi qui as le dernier mot. Mm-hmm. Le dernier mot, c'est la météo, c'est ta mécanique, les autres avions en vol. Alors, tu le fais avec beaucoup de sérieux, de modestie, mais quand tu maîtrises tout ça, ça t'amène une paix intérieure qui est absolument incroyable.
Est-ce que tu as déjà eu peur?
Oui, j'ai eu peur deux fois. J'ai vécu ce que tous les pilotes vivent, c'est-à-dire j'ai perdu complètement ma référence visuelle. Je ne savais plus où j'étais.
Oh, si, ouais.
Dans mes premiers solos, j'allais survoler l'aéroport de Sorel. Ça faisait partie des circuits d'entraînement qu'on faisait. Et c'était en hiver. Alors, en hiver, ta référence visuelle est beaucoup moins forte. Hein? C'est, uh-huh. c'est blanc partout.
Ah ouais.
Et puis, j'ai paniqué un bon 10 minutes. Après ça, je faisais calme. Je suis dans le bout de Sorel, OK. Qu'est-ce qu'il y a dans le bout de Sorel, le fleuve? Bon, j'ai fini par me retrouver. Mais la vraie fois, ce que j'ai eu, mais heureusement, j'étais avec un ami pilote qui a 40 000 heures de vol.
OK, c'est bon.
j'ai décollé de Dorval et puis j'ai perdu tout mon courant électrique. Donc, ça m'a coupé mes communications, ça m'a coupé tous les instruments qui sont à base électrique, donc l'altimètre, ton indicateur de vitesse, tout ça, mais ça ne coupe pas ton moteur. Mm-hmm. Alors, mais là, c'est paniquant parce que dans la zone de Dorval, tu es obligé de communiquer avec la tour et ensuite avec la zone terminale pour suivre les instructions qu'on te donne. Et là, j'en avais pas. Puis à l'époque, j'avais pas d'appareil portatif. Je peux te dire que le lendemain matin... Là, donc, j'ai fait un déroutement vers l'aéroport de Saint-Hyacinthe. Je suis allé me poser là. Je peux te dire que le lendemain, je suis allé m'acheter un émetteur récepteur portatif parce que... Alors, c'est les deux fois où je me suis fait peur. Le reste... Le reste, je dois avouer que... Et je le dis encore avec beaucoup de modestie, je pense que je l'ai dans le sang, l'aviation. Ouais. Je me suis senti toujours très à l'aise dans toutes les facettes du vol.
Wow! C'est intéressant à quel point Paul était aussi passionné par les bruits du moteur et à quel point tu m'amènes dans une autre sphère de celui mm-hmm. qui pilote. Ouais. Est-ce que tu as amusé quand tu prends l'avion pour aller dans le sud, peu importe, en voyage, tu dois toujours jeter un petit coup d'œil dans le cockpit. Tu dois toujours être intéressé.
Ben évidemment, les portes maintenant sont fermées, hein, comme tu sais, depuis septembre, depuis le 911. Ouais. Les portes sont fermées, mais...
C'est pas ouvert un peu? Tu sais, des fois, on rentre, on voit un petit peu, là.
Ouais, ben écoute, en principe, non. En principe, okay. dans un vol commercial standard, en principe, non. Et tu as aussi maintenant, si le pilote veut aller s'étirer les jambes ou aller à la salle de bain, ben maintenant, il faut qu'il y ait un agent de bord qui aille dans le cockpit pour éviter qu'un suicidaire, comme on a déjà vu avec Air Berlin, je ne sais pas si tu te rappelles, éviter qu'un suicidaire barre la porte et qui amène tout le monde dans la mort. Là. Alors, c'est assez réglementé. Mais moi, à une certaine époque, avant ça, bien sûr, c'était plus ouvert. J'ai fait du simulateur aussi. J'ai piloté le Airbus 350 en simulateur. Au moment où je te parle... Je vois un magnifique, justement, Airbus 350 qui passe au-dessus du parc de Paris. Ça va atterrir. Je pense que c'est Qatar Airways qui vient atterrir. J'ai le bonheur aussi de faire du simulateur, de piloter les avions bombardiers aussi, leurs avions hyper raffinés, leurs avions d'affaires. Alors, écoute, j'ai fait mon tour du jardin et c'est un beau moment de ma vie.
Wow, ben merci pour ce beau partage. Puis je voulais te parler aussi, tu as effleuré le sujet un petit peu tantôt par rapport au fait, tu sais, quand vous avez appris que RDS avait perdu le hockey, avait perdu les matchs et tout ça, mm-hmm. Humainement, comment tu as réagi par rapport à ça? Tu as été confus, en crise, triste?
Un peu un mélange de tout ça. Hein?
Les couches
d'émotions, mais c'est... Ce qui est vraiment bizarre, comment c'est arrivé ce matin-là, c'est que la nouvelle a évolué d'heure en heure. Mais moi, le premier coup de téléphone que j'ai reçu de Radio-Canada à Québec, c'est qu'eux avaient compris que c'était terminé au complet pour RDS. Puis ça m'a scié les deux jambes. Je me rappelle être assis sur ma chaise dans mon bureau. C'est là que j'ai pensé à l'éducation de ma fille, entre autres.
Ouais.
Comme ça, j'ai fait, OK, ben là, quoi, la radio, parce que avant de faire du sport à la télé, je te le disais, j'ai quand même fait beaucoup de radio musicale, j'ai été directeur du marketing à CFGL pendant des années avant que ça devienne Rythme FM. Mais tu penses à tout ça, ben pourquoi pas ma petite compagnie d'aviation, tant qu'à faire. Tu sais, là, tu penses à tout ça, mais tu penses d'abord et avant tout que ta fille n'est pas rendue encore, puis tu veux être là, tu veux être supporteur. Puis... Bon, après ça, là, j'ai dit à la Radio de Québec, mettez-moi pas en onde tout de suite à chaud comme ça. Donnez-moi le temps d'assimiler. Rappelez-moi dans une heure. Cette heure-là m'a permis de constater la première, la petite piste d'espoir qu'on avait, c'est qu'on parlait des droits nationaux et que ça n'enlevait pas aux Canadiens de Montréal son droit de vendre des droits régionaux. Nationaux versus régionaux, ça fait pas beaucoup de différence pour nous en français parce qu'on diffuse pas mal exclusivement au Québec. Mais ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'être capté et de diffuser en Alberta puis en Colombie-Britannique puis tout ça. Régionaux versus nationaux.
Ouais.
Et là, on a compris que, petit à petit, que ça touchait surtout le samedi soir puis des séries, mais que si on enlève les 22 samedis ou les 23-24 samedis, peut-être qu'il restait encore un potentiel de 60 matchs pour RDS. Uh-huh. Et là, ça a été vraiment, Sam, là, ça a été l'agonie pendant 2 mois parce que les négociations aboutissaient plus entre Bell Media puis le groupe Molson, le groupe CH. Et on a fini par accoucher, écoute, un peu avant les fêtes. On a fini par apprendre qu'on allait garder 60 matchs du Canadien à chaque année. Alors, ça a été, écoute, ça a été une libération totale. Mais ça a été d'abord l'angoisse sur le plan financier, sur le plan matériel. Et puis après ça, sur le plan... Oui, ça te met en Moses, comme tu dis, parce que t'as dit plus fort que ça, toi.
En crise.
Je vais me garder une petite gêne. Parce qu'on avait eu l'exclusivité pendant une douzaine d'années.
Ouais.
Ça, c'était 12 années euphoriques. Hein. Tu fais tout. Tu hockey, t'es RDS. Puis quand le Canadien est plus là, tu continues, puis tu t'en vas jusqu'à la finale de Coupe Stanley. Puis alors, tu sais, quand t'as tout le gâteau, là, c'est dur d'en laisser partir une
bonne partie. Ouais.
Et puis, la première année a été particulièrement difficile. Mais en même temps, je veux que ça soit bien clair, on n'en veut pas à nos collègues de TVA Sport. Félix Séguin était chez nous. Puis moi, je disais souvent à Félix, patiente, quand je vais prendre ma retraite, c'est toi qui vas avoir la chaise. Louis-Philippe Neveu, qui dirige le département des sports, il a grandi chez nous à RDS. Les producteurs du hockey à TVA Sport ont grandi chez nous à RDS. On les a formés, on les a mis au monde. Alors, Patrick Lalime aussi. On leur en veut pas personnellement. Puis ça, je veux toujours que ce soit bien, bien clair. Ce sont encore des amis professionnels. Mais c'est sûr que ça donne un coup.
Il n'y a pas d'animosité si vous vous croisez sur le trottoir ou à quelque part. On vous souhaite le meilleur, puis tant mieux pour vous autres.
Je me rappellerai d'ailleurs toujours le premier match qu'ils ont diffusé. Marc et moi, on avait demandé à RDS de quand même nous envoyer à Toronto parce qu'on voulait le voir, le premier match du Canadien, puis on voulait être dans l'avion parce que le Canadien allait jouer à Washington après, je pense. Et RDS avait accepté de nous envoyer à Toronto. Imagine-toi, s'il y avait eu à y avoir des flamèches, il y en aurait eu, mais tellement pas. On s'est assis avec eux à l'entraînement du matin. On a regardé l'entraînement des deux équipes le matin. Marc et moi, on a offert nos distances. On ne voulait pas être un dérangement pour eux. Et ce sont eux-mêmes qui ont dit, venez vous asseoir. Puis on apprécie que vous soyez là. Puis on apprécie que vous soyez gentils. Puis on apprécie que vos vœux de bonne chance soient sincères.
Ouais.
Et puis maintenant, regarde, chacun a trouvé sa place. Mais j'ai quand même hâte que le nouveau contrat arrive. On va voir où on va aller. Parce que je n'ai pas l'intention d'arrêter encore, ça, c'est sûr.
Je pense que tout le monde souhaite que tu continues longtemps, longtemps, longtemps. Mais même là, vous avez zéro les séries. Ça doit être travaillé. À un moment donné, j'imagine que la pilule passe, mais quand même, ça doit être...
C'est plus difficile quand le Canadien est là. Écoute, au moment où on enregistre... comment tu appelles ça?
Un spacecast.
Au moment où nous faisons ce spacecast, ça, c'est comme jouer avec podcast, hein, c'est ça?
C'est la même affaire.
Alors, au moment où nous enregistrons ça, le Canadien vient de battre les Jets de Winnipeg et le Canadien attend son adversaire du troisième tour. Et alors, c'est sûr que c'est plus difficile parce que la dernière Coupe Stanley, on était déjà diffuseur, nous, RDS, mais on n'était pas diffuseur des séries éliminatoires, c'était Radio-Canada. Et puis en 86, on n'existait pas. Alors moi, j'ai décrit 12 finales de Coupe Stanley, mais jamais avec le Canadien. Alors, c'est sûr que ça, ça chatouille un peu plus. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas difficile de rationaliser puis de dire, ben, c'est comme ça, c'est comme ça.
Est-ce que tu as la même relation avec, tu sais, puis ça, c'est clair qu'on t'en parle souvent, le fameux gala artiste et tout ça. J'en doute pas, j'imagine que c'est la même dynamique, que peu importe qui est dans la catégorie, vous vous connaissez tous, vous vous appréciez tous. Est-ce que ça te fait, parce que tu sais, veux pas, tu sais, moi je fais un sondage dans mon entourage, puis ça fait des années, Pierre-Houd, la référence, le duo que tu fais avec Marc Denis. Ça n'a pas de Christy de bon sens à quel point vous êtes bon, à un grand coup de supplément d'information. C'est toujours d'une pure merveille. Vous ajoutez au spectacle, vous ajoutez au match, puis je suis très sincère.
Merci beaucoup.
On dirait que dans nos têtes, c'est toujours, quand on voit Pierre-Houd, c'est la sommité, c'est Pierre-Houd. C'est le trophée en soi, c'est Pierre-Houd. Le fait qu'il te glisse sous les pieds à chaque année.
J'en ai un. Est-ce que tu le vois? J'en ai un.
Oui, je le vois.
J'en ai un, c'est parce que l'année où je l'ai gagné, il n'y avait personne de TVA en nomination.
est-ce que ça, entre toi et moi, bon Québécois, ça, je dirais pas chier, mais est-ce que ça te fait suer à un moment donné de comprendre? Est-ce que c'est le produit TVA peut-être qui remporte dû au vote d'un public TVA? Tu sais, c'est...
Regarde, non? J'en suis rendu et je suis très flatté. Et encore là, je le dis avec toute la modestie possible, je suis rendu à 20 ou 21 nominations. et au début, écoute, quelqu'un là, qui dit que c'est pas vrai que le cœur te bat pas un petit peu quand on nomme, quand on donne la liste des nominés, puis t'espères entendre ton nom, je pense que c'est menteur. Mais ce que tu fais au fil des années, c'est que tu apprends à changer tes attentes et tu apprends à comprendre un peu mieux le processus et tu en viens qu'à, et c'est pas pour bien paraître, je te le jure, là, t'en viens qu'à être plus content de la fréquence des nominations que d'en gagner un de temps en temps. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Je comprends très, très bien.
Donc, pour moi, d'être rendu à 20 ou 21 nominations, c'est drôle, je parlais souvent à l'époque avec Chantal Fontaine. À chaque fois, on ne se connaît pas, Chantal puis moi, puis on n'est pas dans la même sphère, mais à chaque fois, on allait se jaser en disant « Vous êtes rendu à combien, Chantal? » Là, je suis rendu à 17. « Vous, Pierre, je suis rendu à 14. » Puis on n'a pas gagné encore. Non, on n'a pas gagné encore. Puis on disait « Le gros L loser, tu sais, ici, viens bon. » On se faisait des blagues comme ça. Et puis, mais tu viens, tu en viens justement qu'à faire des blagues, tu en viens qu'à apprécier d'être aussi souvent dans le sondage. Le premier sondage qui est fait pour en arriver à 5 nominés, ou 5 nominations, tu en viens qu'à être beaucoup plus satisfait de ça que du trophée comme tel.
Ouais. Je comprends. Oui, puis tu sais, moi je dis ça, puis c'était pas pour te mettre dans un coin, parce que je veux dire, j'enlève rien à Dave Morissette, puis je le dis parce que même dans son discours cette année, lui-même dans son sous-texte semblait dire, tu sais, est-ce que je suis le meilleur animateur? Peut-être pas, puis là, il a comme pris le temps de vous vanter, tu sais, on dirait que lui-même, à quelque part, il sait parfaitement, là, que...
C'est clair que c'est un vote, c'est un concours populaire.
Ouais.
Et puis, écoute, à part le fait que là, ça fait 1h17 que vous me voyez le visage dans mon petit carré, moi, je suis plus une voix qu'un visage.
Je comprends.
Et c'est ça. Moi, je fais, dans le fond, je fais de la radio à la télé. Tu me vois quoi en début de match avec Marc? Puis on partage l'écran en plus, puis on a des faits saillants. Tu me vois peut-être le visage 30-40 secondes avant un match, et c'est tout. On fait un après-match pour le web. Donc, si tu vas sur le web, parfait, tu vas nous voir tous les deux. Mais je peux très bien comprendre que la vitrine que donnent les émissions très populaires comme Salut, bonjour, puis l'antenne, puis la plateforme de TVA, je peux très bien comprendre que c'est extrêmement fort par rapport à ma petite fenêtre très précise à RDS. Et ça, c'est pour ça que dans le fond, que RDS ait 3 nominations pratiquement à chaque année, Alain, Chantal et moi, pour moi, c'est pas juste pour Pierre-Houd, c'est une belle reconnaissance aussi de la place qu'occupe RDS dans notre univers. Tu sais.
Totalement. Très bien répondu. Tu as bien démystifié.
puis je t'écoute, je t'en cache pas. Le sac cadeau qu'on nous donne à la fin, c'est le fun. En général, c'est Lynn et Michel qui pigent dedans. Moi, quand ils ont fini, il ne reste plus rien dans le sac.
Astique, c'est drôle, ça.
Il y a beaucoup de produits de beauté là-dedans. Il y a beaucoup de produits anti-rides, anti-âge. Ouais. Je dis, coudonc, on a l'impression que c'est un gala où chez nous, des artistes, tout ce qu'il y a, c'est des crèmes pour la peau et pour les rides. Puis pour les cheveux gris, je dis non. Alors, ouais. Mais des fois, il y a un certificat cadeau, je ne sais pas, à telle boutique, là, Michel part avec ou Lynn part avec.
Oui, ouais, parce qu'il faut dire aux gens qui nous écoutent, souvent dans les galas, on va avoir des petits sacs cadeaux, là, des espèces de cadeaux de la production. Là,
exactement. Et c'est toujours apprécié, puis je le dis avec tout le respect. Là,
ben ouais.
Je m'amuse un peu avec ça. Mais ça fait partie du. Puis ça fait plaisir, écoute, de retrouver des collègues. Tu sais, quand tu arrives à. Moi, je suis rendu à 40. Attends une minute. Au mois d'août, je suis. Au mois d'août, ça fait 46 ans de métier.
Aïe.
En 46 ans, je vais te donner exemple aux nouvelles de Radio-Canada. Tu sais, Jacques Bissonnet, le reporter. Jacques, qui est le conjoint de Céline Galipeau. Ben, Jacques, il a fait sa première nuit à CKAC avec moi. Qu'est-ce que tu veux? On se retrouve, puis quand on a le droit d'être accompagné, ce qui n'était pas le cas cette année, tu arrives avant d'aller sur le tapis rouge, puis tu tombes sur Céline, puis sur Jacques. Qu'est-ce que tu veux? Puis Pierre Bruneau était le nouvelliste du Grand Bulletin le matin à CKAC quand j'étais là avec Jacques Morancy. Pierre et moi, on a fait de la radio ensemble. Puis là, on se retrouve, puis après ça, ben, tu vas dans le sport, c'est d'autres. Après ça, ben, tu sais, quand tu as tout ce vécu-là, le trophée est peu important. Tu as assez hâte une fois par année de revoir la gang de Radio-Canada, puis la gang des nouvelles à TVA, puis la gang du sport. Puis le hockey, ben, tu sais, c'est rassembleur. Fait que là, souvent, ben, tu as des comédiens. Marc Messier est venu me voir au dernier Gala Artiste. On a jasé pendant à peu près une demi-heure. C'est ça, vraiment, pour moi, c'est tellement le fun. Beaucoup plus que de gagner ou pas gagner.
Ah ouais, cette espèce de retrouvaille annuelle où on n'a pas le choix, où la vie s'arrête le temps d'une soirée pour se parler, effectivement.
Ouais. Et puis, avant de connaître Lynn, et puis quand j'étais en train de changer ma vie, un des grands bonheurs que j'ai eu, c'est ma fille qui m'accompagnait, c'est Michel qui m'accompagnait.
Oui.
Alors, ça, c'était un beau moment père-fille, puis on prenait des photos, tu sais, la robe longue, puis le tuxedo.
Ouais.
Et puis, et là, Lynn, notre relation est jeune, elle est venue au premier gala, puis... L'an passé, il n'y en a pas eu. Puis cette année, les conjointes et les conjoints n'étaient pas invités. Pandémie oblige. Fait qu'on, on espère être en nomination l'an prochain. Puis là, Lynn ne va pas ressortir sa robe longue.
D'ailleurs, ça fait 2 ans, 3 ans que tu es avec Lynn?
Oui, 3 ans. 3 ans, quelques mois. Puis on est vraiment sous le même toit depuis 2 ans. Et puis, écoute, puis là, la pandémie est arrivée en plus. T'sais. Alors, puis moi, j'ai fait beaucoup de télé de chez moi, comme je fais avec toi présentement. Mmh. Et puis Lynn, des suites de sa maladie, tout ça, elle est en arrêt de travail un bout. Alors, je peux te dire une chose, on a eu notre camp d'entraînement. On est parti. Lynn était en maison. Moi, j'étais en maison aussi à l'époque. Puis là, ben, on est dans on a un beau petit nid d'amour ici. On se plaint pas, mais je peux te dire une chose, c'est que c'est pas pareil, hein, la vie en condo et tout ça. Alors, on a passé à travers ça. Puis, des fois, on en rit ensemble. On est sur notre petit balcon, on prend notre souper ensemble. Des fois, on en rit de ce que c'était il y a un an. On rit jaune, mais en fait, ça a été... on s'est dit, ça se peut pas. On aurait traversé ça au début de notre relation. Qui aurait cru qu'on aurait traversé un bouleversement mondial comme ça, qui a changé la base des habitudes de vie? Alors, imagine-toi pour un nouveau couple. Alors, on est passé au travers, haut la main.
As-tu un petit côté romantique? As-tu des choses que tu fais des fois que, oh, tu me réponds déjà oui de la tête, j'adore tout. C'est quoi les petits gestes, les petits mots? Qu'est-ce que tu fais de concret?
Ah oui, d'ailleurs, mon frère dit toujours, et qu'on est donc différents, Pierre et moi, là-dessus. Paul, c'est pas ce qu'il y a de plus romantique, probablement.
C'est ce que j'en ai compris dans l'espace-casse avec lui.
L'espace-casse a révélé ce côté-là. Moi, je suis très vieux jeu là-dessus. Je crois aux fleurs, je crois aux petits mots d'amour, je crois... écoute, dans les choses que des amis de femmes m'ont dit avoir craqué, au début de ma relation avec Lynn, je suis en train de décrire un match. Et puis, je lui fais un FaceTime pendant que je décris.
Non. En plein match?
En plein match. Et des petites surprises comme ça. Je suis pas un grand chef, mais grâce à mon copper chef, je fais de la cuisine. Et j'aime préparer le souper pour Lynn. J'aime la complimenter. J'ai ce côté romantique qui est naturel pour moi. Je trouve que c'est une des belles douceurs de la vie. que d'être... Puis je sais que ça fait un peu vieux jeu, là, puis je ne veux, veux pas sonner trop vieux, mais je pense que pour moi, il y a encore une certaine... d'avoir une certaine noblesse dans le romantisme, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être complètement éclaté des fois, là, on s'entend. Là.
Ah ouais.
Il y a une certaine noblesse dans le romantisme, dans l'aspect courtisane de la vie. Moi, je trouve que c'est important. C'est une belle épice de la vie et je m'assume, disons.
C'est quoi? Ben non, puis c'est pas vieux jeu du tout, au contraire, je trouve ça merveilleux. Puis c'est quoi ton, ton plus signature là, quand tu veux séduire ta belle Lynn là, dans, ton, dans ton copper chef? Là.
Lynn? C'est quoi mon plat signature? Le canard, la cuisse de canard confite? Avec la petite sauce aux fruits maison.
Aux fruits maison, c'est toi qui l'as fait?
C'est la sauce maison, oui, mais écoute, je l'ai fait. C'est pas moi. C'est pas vraiment compliqué. Mais oui, c'est moi qui l'ai fait. Je fais ça avec amour. Je répète, je suis tellement pas un chef. Je suis un cuisinier, disons. Je suis un cook.
Ah ouais.
Alors, mais ça, on aime ça quand on veut se faire quelque chose de spécial. Puis ça demande, tu sais, il faut tout coordonner ensemble. Et puis, mais sérieusement, j'ai découvert le plaisir de la cuisine quand j'ai eu mon premier diagnostic de cholestérol très élevé. C'est okay. dans les gènes de la famille Hood. Okay. C'est pas pour rien que mon frère a eu 5 pontages.
Ah, c'est moi. Oh, c'est... je savais pas ça. Ben, ouais, me semble qu'il m'avait pas dit ça, non?
Ouais, ben ça a été public. C'est pour ça que j'ai pas d'objection à en parler. Mais c'est notre gros problème génétique.
Okay.
Alors, moi, à 40 ans, on m'a dit que tu es une bombe à retardement. Et du jour au lendemain. Et donc, j'ai. Moi, j'ai pris ça très au sérieux. Je me fais tester régulièrement. Je suis sous médication depuis que j'ai 40 ans. Et j'ai consulté tout de suite une diététicienne pour essayer d'améliorer mes chances, comme on dit.
Ouais.
Et puis, ça m'a amené à trouver du plaisir à faire la cuisine.
OK.
Et donc, écoute, si tu m'avais dit ça, là, il y a 20 ans, que Pierre Houde allait aimer faire la cuisine, tu aurais dit, ben voyons, m'acheter un Copper Chef, oui, parce que... parce que mon verre de vin m'affecte un peu trop à 3 heures du matin. Mais avoir le plaisir de l'utiliser, mon Copper Chef, ça, je t'aurais dit, t'es malade. Puis finalement, tu vois, écoute, ça me détend, c'est extraordinaire. Je m'installe, je prends mon petit verre de vin blanc. Puis là, mais je fais rien de trop compliqué. J'ai un système digestif qui est assez fragile. Donc, tout ce qui est un peu extrême, je peux pas parce que ça me prend trop longtemps d'assimiler et à digérer tout ça. Je fais de la cuisine de base. J'aime beaucoup le comfort food. On aime se faire des bons sautés poulet, légumes. On aime se faire... là, on a un petit barbecue sur le balcon. On aime se faire des grillades. Et puis, mais je le fais tout le temps avec le même amour pour Lynn. Je lui fais... Et elle me le rend bien. Là, je peux te dire qu'on s'est fait des lunchs hein, ces temps-ci. Là? Alors... parce que tout était fermé, hein, les restaurants. Ouais. Même au Centre Bell, il fallait que j'apporte mon lunch.
Hein, pas choix, oui.
Alors, Lynn en fait beaucoup aussi. Puis ça fait partie de notre petite routine affectueuse, disons.
Pierre, comme dirait ma blonde, je l'aime assez, Pierre. Ma blonde est en amour avec toi. Si un jour ça ne marche plus avec Lynn, je pense qu'elle va me crisser là. Okay, pour
Lynn,
toi.
Lynn, la blonde de Sam est prête à m'accueillir comme futur amant. Est-ce que tu es prête à. Lynn, es-tu prêt d'en avoir un plus jeune?
Ben, apprends. Moi, Lynn, on s'appellera des samedis soirs qu'on pourra se voir.
Je pense que Lynn, là, je ne te donnerai pas son âge, je ne ferai pas ce gaffe-là. Elle est un petit peu plus jeune que moi, mais je peux te dire une chose, Sam. Les têtes se tournent quand elle passe.
J'en doute pas, ça fait parce que
c'est un méchant beau pétard.
Ah, thank you, Pierre. Merci. Merci infiniment pour tout ça. Merci pour
c'est
ce moment-là.
C'est pas laissé parler beaucoup, hein?
Ben,
t'as jamais aussi peu parlé de ta vie.
Ah ben, et c'est tant mieux pour tout le monde. On est là pour toi, mon beau Pierre. C'est pour ça que je fais ça. Puis merci pour ta générosité. Merci. Mon Dieu, tu m'as appris plus que prévu.
Ben écoute, je te connais pas personnellement, mais là, j'ai l'impression que ça fait 20 ans que je te connais. J'ai craqué juste en regardant ta promo sur ton site web de ton Spascast.
De mon Spascast.
Est-ce que je le prononce comme il faut?
Ah, c'est génial. Hein? C'est génial.
Ça, c'est comme ceux qui disent qu'ils vont en faute de détails.
Faute de détails.
De vacances. Bon, excuse-moi, le Spascast. Puis qui prennent de la crème d'amande puis du grand marinier. Ce que je voulais te dire, c'est que. Il appelle ça un Spascast. Ce que je voulais te dire, c'est que j'ai l'impression de te connaître depuis longtemps. Tu es super sympathique. Puis moi, je te lance l'invitation parce que Marc Denis et moi, puis notre belle Andréanne Barbeau, qu'on adore, et mon agent Sylvain Simard, on a créé une web diffusion qui s'appelle Ma Parole. Ça a l'air que tout le monde craque quand je dis ma parole.
Là. Oui, oui, je te confirme.
Tu me le confirmes? OK. Et puis, écoute, je sais ce que c'est une aventure qui a l'air bien facile, mais ce n'est pas si facile que ça. Mais regarde les opportunités que ça donne. Oui. Alors, j'aimerais que tu me fasses le même honneur de participer à ma parole. Parce que nous, on a fait 2 pilotes.
OK.
Et on va commencer pour vrai à l'automne. Alors, on aimerait ça que tu fasses partie de notre liste de premiers invités. Ben. Est-ce que on s'entend là-dessus?
Là, c'est enregistré. Là. Je ne pourrais pas reculer, Pierre. Je te le confirme. On s'entend. Puis je vais être de votre podcast balado. Là, okay. Ma parole. Là, je vais être là.
Mais la seule chose, c'est que sur ton site web, je suis allé voir ton horaire d'ici la fin de 2021. Non, mais c'est fou. Tu ne pourras pas faire tout ça, pour vrai.
Ouais, j'avoue que
non, mais t'es malade. Non, mais ça n'a pas de sens.
Écoute, moi, ce que je fais, Pierre. Là,
Paris, Londres, Amsterdam. Wow! Mascouche!
Moi, ce que je fais, c'est que je me mets de la bonne musique des bolcheviks, puis là, ça me détend.
Non, non, tu ne veux pas écouter ça. Non, non, please. Tu vas perdre la foi. Je sais pas. Hey, mais bonne chance. C'est complètement fou ce que tu vas faire.
Ben merci, Pierre. Et je t'inviterai, quand on pourra revoir des vrais de vrais salles, je vais t'inviter personnellement à venir voir mon one-man show.
Alors, je vais y aller avec grand plaisir. Lynn va être là. Lynn elle-même aurait été très bonne stand-up.
Ouais,
et puis, on va amener Michel, parce que Michel craque pour tous vous autres. Michel craque, mais vraiment pour les humoristes du Québec. Alors, on fera une sortie.
Ben, mais mon Dieu, Seigneur, ça va brosser tantôt. J'aime tout ce qui se passe.
Ouais. Puis tu pourras me taquiner, puis je pourrais être ta tête de turc, tu me vois en avant.
Ouais, je vais te taquiner certain. Puis,
le copper chef.
Avec sa poêle, le style du son. Je vais pouvoir t'autographier le dessous de ta poêle, copper chef.
Ton futur copper chef, oublie pas.
T'es-tu sérieux?
Ah oui, je te l'ai dit, je t'ai mis sur mon testament.
Ah oui, c'est vrai.
Lynn a dit, moi, j'en veux même pas. Elle n'en veut même pas.
Va tout prendre de Pierre. Ça va me faire plaisir. Merci.
Grand plaisir. Merci
Pierre. Merci.
Passez un 90 minutes extraordinaire. Merci beaucoup.
C'est gentil. Merci. Bye-bye.
Bye.